Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité. Il est 8h02 sur les ondes de Radio Galère. On s'excuse pour les deux petites minutes manquantes, voilà, c'est les impondérables et les lois du direct. Anthony au micro, accompagné de Richard ce matin. On salue l'absence de notre cher Christian, qui n'est pas avec nous exceptionnellement ce matin et devrait nous rejoindre dans 15 jours, voilà. Vous êtes évidemment en direct sur les ondes de Radio Galère de la bande FM, c'est le 88.4. On est également audible sur le www.radiogalère.org et pour ceux qui possèdent la RNT, c'est le canal 8C. Je vais vous détailler le menu. Évidemment, on a un menu extrêmement accrocheur et alléchant. Petite revue de presse rapidement avec Richard. On va évoquer notamment les grands axes de notre émission, à savoir que dans 5 à 6 minutes, on a le plaisir de recevoir le musée provençal de Château-Gombert, qui est représenté ce matin par la directrice de l'association des œuvres sociales et régionalistes de Château-Gombert, Madame Brémondi, son conservateur et responsable des collections, Monsieur Alexandre Mahu. Et dans les bouchons, et devra arriver dans les prochaines minutes, nous rejoindre au pied levé pour donc développer cette 35 minutes en tout cas avec lui et Madame Brémondi pour évoquer ce magnifique château, ce magnifique musée provençal à Château-Gombert. On va évoquer notamment ses actualités, mais son âme, ses grandes lignes. Il y a beaucoup d'éléments à éclairer et surtout à susciter la curiosité des auditeurs et auditrices. 8h45, 9h25, c'est le dossier large de Radio Galère. Ils sont déjà avec nous. On va parler de la carrière et du projet de la carrière de Mazog. Ils sont venus depuis le Var avec nous ce matin. Ce sont notamment les Gilets jaunes. Vous verrez, c'est un dossier extrêmement pointu et extrêmement menaçant, notamment pour des raisons politiques, sociales, écologiques. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ça, c'est de 8h45 à 9h25. Et on conclura, vous en avez l'habitude, sur le mercredi à chaque fois, 9h30, 10h. C'est le volet culture. On parlera de musique et on recevra le collectif Art et Musique qui nous parlera notamment de musique sicilienne avec Maura Guerrera. On parlera de Transphonie de Marseille, qui est un festival, un hommage à Marseille, avec notamment Cathy Delolme. Ça, c'est donc de 9h30 à 10h. Mais tout de suite, c'est la réalité et c'est le direct, mon cher Richard. Donc bonjour à toi, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Galère. Tu vas évidemment nous donner la journée internationale ou nationale du jour, mon cher Richard.
Eh bien, auditeurs, auditrices, bonjour Anthony, puis notre invité qui est déjà sur le plateau avec nous. Alors aujourd'hui, donc, journée mondiale. Alors c'est une journée, écoutez bien, journée mondiale d'action contre l'ordonnance sur les brevets en Inde. Ça veut dire quoi? Donc en Inde, il y a une ordonnance qui est sortie qui protège les brevets et qui ne permet pas facilement, ou pas du tout, de transformer les médicaments en génériques. Très bien. Alors ça, c'est très embêtant. Ou pas. Alors ça protège bien sûr les brevets et l'action pour le développement culturel de tous ces produits et des médicaments. Et par contre, bon, ben, ça limite parce que des gens qui ont le sida ne peuvent pas acheter les médicaments chers, etc. Les génériques sont un peu bloqués. Donc il y a eu, c'est la journée mondiale contre cette protection. Après, on peut être pour ou contre, selon, c'est toujours pareil, des idées peuvent se discuter. Mais enfin, voilà, il y a beaucoup, énormément de personnes sur la planète qui ne peuvent pas se soigner, car les génériques ne sont pas là. Voilà.
C'est important de le rappeler, et merci de souligner en tout cas cette journée mondiale qui concerne évidemment les génériques et notamment ces brevets en Inde.
Qui sont contre, hein.
Évidemment. On a bien situé la chose. Un petit mot, puisqu'on me le demandait, le standard n'est toujours pas possible. Vous savez, depuis quelques semaines, on rencontre des soucis techniques pour l'interaction en direct. On me le redemande par SMS. Non, la ligne 04-91-028-28-10 que vous utilisez désormais depuis 18 ans n'est plus disponible pour l'instant. Mais vous en avez l'habitude, utilisez mon réseau, utilisez les SMS ou les mails, on sera réactif évidemment. 8h06 sur les ondes de Radio Galère, on va évoquer évidemment, elle est déjà avec nous, Madame Evelyne Brémondi, directrice de l'association des œuvres sociales et régionalistes de Château-Gombert. En attendant, Monsieur Mahu, on va évidemment vous saluer et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Galère. Bonjour Madame Brémondi.
Bonjour et merci à vous, à Radio Galère. C'est avec plaisir qu'on vient chez vous.
Mais avec grand plaisir, on est ravis de vous accueillir sur les ondes du 88.4. C'est une première pour nous de vous avoir et c'est un vrai honneur. On va parler avec vous dans un premier temps, puisque du coup, notre conservateur n'est pas actuellement présent. On va évoquer dans un premier temps l'association des œuvres sociales et régionalistes de Château-Gombert. Éclairez-nous, donnez-nous un petit peu les grandes lignes de cette association. Et évidemment, comment est-elle greffée au sein de ce joli musée provençal? On va même le situer, Madame Brémondi, à Château-Gombert, puisqu'il compte parmi évidemment les grands axes et les grands lieux de Marseille. C'est le deuxième musée ethnographe. Alors, ce qui est important, c'est que on va développer le volet privé, mais on va développer aussi son âme, on va développer les grandes actualités. Il y a beaucoup de choses à dire et vous en êtes aussi une des garants de tout ça. Et donc, c'est important de le rappeler, Madame Brémondi.
Alors, c'est une très, très belle histoire, puisqu'elle commence avec Jean-Baptiste Julien Pignol, qui est le fondateur du musée, qui était issu d'une famille d'entrepreneurs maçons et qui, très jeune, s'est intéressé au mouvement créé par Frédéric Mistral. Frédéric Mistral, qui, grâce à son prix Nobel de littérature, a connu sa notoriété et a pu installer le premier musée d'art et tradition populaire en Arles, le fameux musée art latin.
Exactement.
Qui a été repris par le département, premier musée d'ethnographie, qui a été récemment inauguré et rénové complètement et qui présente une collection absolument extraordinaire. Et Jean-Baptiste Julien Pignol a été invité à cette inauguration du musée art latin donc en 1909 et de là il a été complètement séduit par le message lancé par Frédéric Mistral que désormais il faudrait absolument qu'il y ait des personnes comme Mistral dans toutes les, comme lui dans toutes les provinces pour garantir et sauvegarder les souvenirs du passé et leur patrimoine dans toutes les régions de France. Et Jean-Baptiste Julien Pignol a été complètement séduit par ce message et a décidé de construire pour Marseille le musée des arts et traditions populaires du terroir marseillais. Alors la terminologie elle a pas mal évolué. Maintenant, on parle de musée d'ethnographie, musée de civilisation. N'empêche qu'en 1928, il a pu inaugurer son musée. Il a passé toute sa vie, il était beaucoup plus jeune que Mistral, il a passé comme lui toute sa vie à collecter et il a pu inaugurer donc le musée. Donc en juin 1928, il y a même eu Madame Mistral, parce que Mistral était décédée entre-temps, qui avait assisté donc à cette inauguration et qui avait fait l'honneur de sa présence à cette occasion. C'est un très très beau musée, mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que vous m'avez présenté effectivement comme étant responsable de l'association des œuvres sociales régionales de Château-Gombert, c'est un peu un nom un peu compliqué.
Mais c'est important de décrypter.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste Julien Pignol, passionné par son patrimoine et la culture provençale, mais c'était pas que, c'était aussi passionné par, il était un philanthrope et il avait décidé de créer donc un bâtiment, parce qu'il est parti, parce que lorsque vous arrivez sur la place des Héros, vous ne soupçonnez pas toute la superficie qui se développe derrière ce bâtiment. Donc il avait tout simplement acheté des petites maisons qui se trouvaient sur cet arrière du bâtiment. Il en a rasé les toitures. Il a
19 petites maisons biscornues, c'est ce qu'on
voilà, complètement, et qui vous explique les accidents de circulation, enfin la complication de la configuration des salles où on monte et on descend par 2-3 marches régulièrement pour arriver donc jusqu'au bout du musée. Mais en tout cas, au-dessous, il y avait... alors donc on est sur pratiquement un troisième étage par rapport à un rez-de-chaussée qui se trouve de l'autre côté du village, pratiquement au niveau du chemin de Palama. Donc ça se développe presque sur 2000 mètres carrés. Et de là, il avait tout simplement souhaité installer pour les villageois et pour les personnes de son village, un hospice pour les anciens.
Un
dispensaire pour les anciens, qui ne soient pas obligés d'être expatriés dans leur, dans des hors de leur quartier. Un dispensaire pour les enfants du village Et le groupe folklorique de Château-Gombert, pour qu'à travers la danse, le chant, la musique,
tout
la langue...
Tout à fait. On salue Denis Pantaléon, voilà, qu'on reçoit
absolument
de temps en temps à la radio.
Alors après,
qui continue encore à fonctionner.
Ah ben je comprends.
Et même avec des... Contrairement à ce que les gens peuvent croire, avec des jeunes qui,
ah bien
de
sûr,
plus en plus, adhèrent à ça.
Tout à fait.
Avec des costumes...
Magnifiques.
Tout à fait. On va saluer.
Magnifique.
Exactement. On a voilà beaucoup de choses à dire.
Donc, ça fait... Je vous interromps, c'est pour clore l'aspect social et régionalisme, parce qu'on ne parlait
tout
pas d'ethnographie.
Tout à fait.
Donc, de l'asso. Voilà.
Exactement. Et vous en êtes la directrice de cette fameuse association, on le rappelle, des œuvres sociales et régionalistes de Château-Gombert. On accueille le conservateur et le responsable des collections, Alexandre Mahut, qui est avec nous. Bonjour, monsieur Mahut.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. On le sait, c'est toujours pénible. Les impondérables, le trafic routier, c'est jamais évident. On avait eu le même problème il y a deux petits mois. Vous avez dû faire, à l'époque, machine arrière. Là, vous avez été, j'allais dire, pugnace. Vous êtes avec nous et on est ravis de vous accueillir. Merci pour votre responsabilité et puis pour votre enthousiasme à l'idée de nous rejoindre. Donc, c'est un vrai plaisir de vous avoir en tant que conservateur du musée. On va mettre un petit peu les pieds d'emploi parce que le temps nous est compté, il nous reste 27 minutes et on a envie d'évoquer avec vous et avec Madame Brémondi les grands axes de ce joli musée provençal. Donc on le rappelle, situé à Château-Gombert. Un mot dans un premier temps sur un petit peu l'ADN du musée, monsieur Mahut. Comment on peut l'identifier, j'allais dire, artistiquement, architecturalement. On l'a très bien fait avec Madame Brémondi qui nous a évoqué les différents axes. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Alors, c'est d'une part un musée d'art et tradition populaire, en tout cas un musée d'ethnographie, et Dieu sait si cette thématique est intéressante parce qu'elle parle à tous. C'est la culture matérielle, la vie domestique, la vie quotidienne de nos ancêtres, et donc, dans toutes les dénivellations de la société, cet aspect-là est intéressant. Mais s'il y a bien un ADN, en tout cas s'il y a bien une spécificité qui caractérise Château-Gombert, c'est aussi et surtout le fait qu'il s'agit là un peu d'un musée du musée. Car le manque de moyens depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses décennies, depuis la mort du fondateur, qui n'a pas permis de moderniser totalement le musée ou de réaliser des restaurations et des rénovations très importantes au cours du temps, a fait, et c'est une chance d'une certaine manière, que le musée que l'on visite aujourd'hui est à bien des égards très proche et très conforme, en tout cas est très ressemblant à ce qu'il était lorsque le fondateur y vivait, faisait les honneurs de la visite, etc. C'est un musée qui est totalement désuet en apparence, mais qui en réalité contient quelque chose de très précieux. C'est l'atmosphère de ces musées de société.
Une âme.
Et
une âme, ça c'est précieux.
Cette âme est en effet c'est ce petit je ne sais quoi de tout à fait suranné qui séduit généralement le visiteur parce qu'effectivement, les vitrines anciennes, les interrupteurs en porcelaine, les vieux carrelages. Il y a tout un cadre architectural et décoratif qui est celui du siècle dernier et qui impressionne toujours. D'autre part, et c'est peut-être ce qui caractérise Château-Gombert, c'est un grand cabinet de curiosité. Parce que comme depuis un siècle les salles se sont sédimentées, et bien depuis 1928, dans ces salles se trouvent présentées à la fois un fonds de meubles régionaux exceptionnels, un fonds de faïence qui est pléthorique, un fonds textile qui nous est envié tant il est riche et tant il est varié, avec notamment de très belles pièces d'indiennes et de boutis des 18 et 19e siècles, et puis aussi une collection de santons qui est l'une des caractéristiques de l'institution. Plusieurs
et
milliers
de la
de
Provence
santons,
également, évidemment, hein, quelque chose qui est extrêmement fondateur.
Alors,
chez nous depuis un certain temps.
Mais qui n'a pas été... Curieusement, les santons n'ont pas fait leur entrée dans les musées de la région de manière massive. Le musée en art latin, qui est notre grand frère, ne possède pas un fonds très important de santons. Le santon, c'est une aventure avant tout marseillaise, et il est vrai que Château-Gombert a l'une des plus grandes collections, en tout cas une collection de référence en France.
Ça c'est intéressant. On évoque 8500 œuvres réparties sur 2700 mètres carrés. Donc on évoquait tout à l'heure avec Mme Brémondi la profondeur, en tout cas l'étalage. Donc c'est extrêmement bien développé. C'est un musée privé qui a conservé en tout cas son âme. Vous êtes là depuis 4 ans. Madame Brémondi est ravie en tout cas, et elle vous a valorisé, on tient à le dire, sur vos compétences. Voilà, il rejaillit une image extrêmement...
Elle n'est pas marseillaise pour rien.
Non, c'est pas vrai. J'assume complètement. C'est la garantie d'un avenir encore plus prometteur avec... La responsabilité enfin avec Alexandre Mahut qui aura désormais la responsabilité du musée, et c'est une garantie de pérennité absolue.
Mais écoutez, ça, c'est
avec
magnifique.
L'âme, parce que je dois. Richard. On parlait de l'âme parce que c'est vraiment, je veux dire, c'est quand les visiteurs sortent du musée, c'est la réflexion première, c'est un musée qui a conservé son âme. C'est quelque chose qui respire ce sentiment en tout cas.
Et ça, c'est peut-être le premier élément, le plus prépondérant, le plus important en tout cas de ce qui s'y dégage. Richard, je t'en prie pour
juste
une petite question.
Une parenthèse qui me paraît relativement importante. C'est que, dommage, beaucoup de Marseillais ne savent pas que le musée existe et ne l'ont pas visité. Ça, pour moi, c'est une grande faute parce que c'est notre histoire, c'est l'histoire provençale et c'est tellement beau, tellement véridique, si vous voulez, dans notre culture marseillaise et provençale que il faut inviter les gens à venir visiter, bien entendu, mais surtout aussi les locaux qui ne savent même pas que ce musée est pour eux, quoi. C'est leur musée. Voilà,
c'était absolument
très important pour moi de dire ça.
Mais
après,
vous savez
bon,
que la communication coûte cher et que en tant que musée privé, on a beaucoup de difficultés
voilà,
à communiquer.
C'est une grande chance d'avoir
alors,
ça.
Vraiment. Justement.
C'est pas toutes les régions, peut-être de France, qui ont des souvenirs et des mises en valeur de cette qualité.
Alors justement,
après, on va venir sur les modifications et que vous avez fait au niveau de la restauration. Hein, ça, c'est très important. Hein.
Exactement. On va y venir. Mais un mot, notamment, on a parlé du public, quand même extrêmement important. Monsieur Mahut, vous allez le développer avec également Madame Brémondi sur, justement, les visites à thème, les inventaires participatifs. Là aussi, ça permet justement d'attirer, d'être attractif. On l'évoquait, ce musée, et peut-être, alors quand Richard dit méconnu, c'est que, en effet, il a quand même une vraie entité, une vraie notoriété. Mais bon, on aimerait que davantage de Marseillais, en tout cas, se l'approprient. Ça, c'est important, et pas uniquement le secteur de Château-Combert. Madame Brémondi, qui souhaite réagir.
Oui, je souhaite dire aussi que la ville de Marseille nous a envoyé à participer à la prise en charge de l'accueil des scolaires. Et on a reçu depuis la rentrée 2024, et jusqu'encore, avant les vacances,
oui.
les écoles primaires de Marseille qui viennent le visiter.
Ça, c'est très bien, c'est une bonne chose.
Qu'est-ce qu'ils ont comme réaction, tous ces jeunes?
Alors c'est des tout petits, hein, mais ils sont ravis. Ils sont ravis parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude de pénétrer dans des musées qui ont conservé comme ça cette ambiance que c'est presque un petit peu en référence. Bon, je vais un peu abuser peut-être, mais c'est un peu comme s'ils rentraient dans l'univers d'Harry Potter, vous savez. Ils sont dans une découverte totale et ils n'ont tellement pas l'habitude de rentrer dans ce genre de lieu qu'ils sont absolument ravis.
C'est ça.
Quand ce ne sont pas les visiteurs.
Parce oui, quand que... aussi.
C'est vrai. Alors, sur cette restauration, donc, qui a duré quand même 3 ans.
Alors oui, elle est toujours en cours.
Oui, et puis un mot sur les visites, les inventaires participatifs.
Alors
également
fait,
pour qu'on puisse suivre le fil conducteur.
Alors tout à fait, mais l'un ne va pas sans l'autre. En fait,
tout à fait.
La restauration est menée tambour battant avec l'ouverture au public. Parce qu'il y a beaucoup de musées qui, malheureusement, quand ils connaissent d'importants chantiers comme celui-ci, ferment au public. Ce qui est tout à fait légitime parce qu'il y a évidemment des travaux et des règles de sécurité à respecter. L'avantage, c'est que le caractère très biscornu de ce musée nous a permis de réserver des parties ouvertes au public et de réserver des parties aux travaux. Et c'est par conséquent judicieux parce que nous arrivons à recevoir le public tout en restaurant le musée. Et la particularité de la période dans laquelle nous nous trouvons, c'est que comme on est obligé de remettre à plat toutes les collections, toutes les salles, etc., eh bien, le visiteur découvre les coulisses de la restauration d'un musée. Et il nous a semblé pertinent de montrer cet aspect, parce que cet aspect est souvent dissimulé pour des raisons logistiques, tout simplement, et puis parce que, bon, on n'a pas forcément le temps ni la capacité de recevoir en plus en masse du monde. L'intérêt, c'est qu'effectivement, nous essayons, outre l'exposition sortie de réserve à laquelle votre radio avait réservé un sympathique reportage il y a quelque temps, qui nous avait permis de parler du chantier des collections, nous envisageons des visites qui permettent de voir la mise en place d'un plan de conservation préventive et notamment montrer ce qu'est un inventaire, c'est-à-dire toutes les opérations très fastidieuses qui conduisent à mieux connaître une collection, à y découvrir parfois des trésors, à y redécouvrir des pièces majeures. Et nous avons effectivement souhaité, à partir de ce printemps, proposer à l'issue de la visite le samedi un inventaire participatif, c'est-à-dire que les personnes qui ont été séduites par 4 œuvres dans le musée les choisissent. On leur dit au début de la visite qu'il faut donc choisir quatre œuvres de leur choix. Et ces personnes vont, sous la houlette d'une jeune muséographe que nous avons actuellement en stage, qui est tout à fait remarquable, Ninon Garcia, et qui est une professionnelle des inventaires, sous sa direction, ils vont inventorier convenablement ces quatre coups de cœur.
Génial.
Pour apprendre en quelque
sorte. Est-ce que les coups de cœur sont souvent communs ? Est-ce qu'ils sont souvent les mêmes ?
Bien entendu, non, puisque...
C'est ça qui fait la force de l'art.
En général, on est même surpris par les coups de cœur, puisque bien entendu, ce qu'il y a de plus insolite ou ce qu'il y a de plus méconnu plaît. En réalité, ce qui est à retenir, semble-t-il, c'est que ce type de musée éveille pour les gens d'un certain âge des souvenirs très anciens, des souvenirs familiaux, des souvenirs d'enfance. Mais même pour les jeunes gens et pour les enfants qui sont parmi nous, c'est un peu un... Comment dirais-je ? C'est un monde englouti, c'est un cabinet de curiosité. Il y a des objets tellement mystérieux, tellement énigmatiques, tellement surprenants que la visite passionne toujours. Et il est vrai qu'à ce titre, bon, cet inventaire promet d'être encore assez long, puisque vous le disiez, il y a 8500 œuvres, ce qui réservera pendant de nombreuses années à la fois des visites passionnantes, des inventaires participatifs. Et puis il est vrai que, d'un point de vue purement esthétique, il y a une certaine beauté dans le Grand Bazar, qui est un bazar organisé, mais il y a quand même une certaine esthétique de l'inventaire, puisque le musée est envahi par des housses, des caisses, du papier de soie, du papier bulle. Et cette invasion...
Ce qui fait aussi le charme.
...donne au musée quelque chose de très insolite, un aspect très curieux. Et je crois qu'on le regrettera probablement quand tout sera très rangé et très léché.
Et en même temps...
Madame Brémondi, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît.
Et en même temps, vivant. C'est très vivant.
Et oui, c'est ces travaux donc, qui durent depuis longtemps. Est-ce qu'on peut essayer de mettre en valeur les gens qui ont fait toutes ces... Les artisans, parce que je présume que vous avez des métiers qui sont très difficiles à trouver, peut-être.
Alors, pas tellement dans la mesure où le bâtiment date du 19e et du 20e siècle, donc nous ne restaurons pas Notre-Dame de Paris. Ouais. Nous ne refaisons pas non plus de charpente.
Mais les personnages, tout qu'il faut peut-être nettoyer, qu'il faut peut-être, je sais pas.
Alors effectivement, il y a eu notamment, par exemple, des restaurateurs en peinture, en décor peint, voilà, qui sont intervenus, qui font partie de ces artisans un peu patrimoniaux, notamment Valérie Michaud pour la restauration de plafonds du 19e siècle. Et c'est vrai que ce sont des artisans d'autant plus rares qu'il est assez délicat et assez difficile de trouver des intervenants qui puissent restaurer mais ne pas sur-restaurer, puisque notre critère et notre règle...
Ça vous y tenez en tout cas, justement, la sur-restauration, justement, de maîtriser la restauration.
Exactement, parce qu'il n'y a rien de plus terrible qu'un musée qui est remis à neuf. Et des gens qui, je crois que, au même titre que les Arlésiens attendaient au tournant la restauration du musée Art Latin, il y a quand même un certain nombre de Marseillais qui connaissent Château Gombert et qui attendent au tournant, en tout cas qui s'intéressent à cette restauration. Nous le voyons ne serait-ce qu'en consultant nos visiteurs. Et par conséquent, moderniser de manière outrageuse les lieux aurait été très dommageable, je crois, même vis-à-vis de la lecture que l'on peut faire des lieux quand on les visite.
Ça, c'est extrêmement intéressant.
Vous devez avoir des artisans vraiment de grande valeur.
Et subtils.
Bien sûr.
Vous avez raison.
Madame Brémondi, qui souhaitait réagir ?
Non, je, au contraire, je vais dans le sens d'Alexandre. Et surtout on a toujours mis en valeur au musée, justement, les artisans et l'artisanat. Et c'est d'ailleurs, pendant des années, nous avons été en partenariat avec les lycées d'enseignement professionnel qui mettaient justement en valeur les ébénistes, les menuisiers, les restaurateurs d'horloges. C'est le Léonard de Vinci qui nous a... avait entièrement restauré les horloges et les pendules du musée. On a monté des partenariats avec même les couturiers de la Calade, de la Caplette. On avait ces sections-là, les ébénistes de Germaine Poisson-Chapuis, le lycée des Remparts qui avait réalisé les automates. Et on a toujours mis, avec le concours d'ailleurs de la Chambre des métiers des Bouches-du-Rhône, mis en valeur justement ces artisans et artisans d'art grâce auxquels nos musées d'ethno sont remplis avec ce savoir-faire extraordinaire.
C'est important de le rappeler. Un mot également sur vos actualités, et notamment des rendez-vous, vous l'avez évoqué en off tout à l'heure, Madame Brémondi, ce qui se passe tous les premiers mardis du mois, avec notamment la structure Rayon de Musique. Dites-nous-en un petit peu plus.
Alors, l'association Rayon de Musique est animée par Hermine Fauré, qui est professeure de piano au Conservatoire de Marseille, et Robert Rossignol, qui est un pianiste connu et de jazz. D'ailleurs, on a depuis déjà quelques années en dépôt un magnifique playel pour lequel on a lancé d'ailleurs une souscription sur Eloasso pour pouvoir l'acquérir, parce que tous les
mardis... Vous pouvez faire la pub, n'hésitez pas,
cagnotte. Pour l'acquisition du playel, parce qu'on avait un magnifique Stanoé dans la grande salle justement où se trouvent les collections, l'exposition de Morgane Miroculo. Mais bon, malheureusement, la société Lyrinx s'est éteinte avec le décès de René Gambini, auquel on rend hommage, qui nous avait permis de recevoir des concerts de piano et des enregistrements dans cette salle avec les plus grands noms des pianos. Et on salue la société Lyrinx, qui a fait des choses extraordinaires. Et là, pour ne pas perdre ce deuxième piano qui est en dépôt, donc on a lancé une souscription sur Eloasso pour conserver ce playel. Ce playel qui sert pour l'été au théâtre de plein air, pour les concerts de jazz. On fait partie d'ailleurs de la tournée de jazz des cinq continents.
Qui se passe au Palais Longchamp, qu'on couvre chaque année, tout à fait.
Les premiers mardis du mois, nous accueillons donc des concerts de piano avec une programmation qui est réalisée par cette association Rayon de Musique, donc Hermine Fauré et Robert Rossignol, à partir de 19h. Hein, voilà. Et ça se termine toujours par un petit moment convivial avec un petit
Donc c'est la semaine prochaine.
Absolument.
A priori,
voilà, premier mardi du mois, donc on sera le 4 mars.
Bon, écoutez, alors, parfait. Bon, Richard, il nous reste 10 petites minutes.
Voilà, pour ces concerts et pour les visites. Donc, je présume qu'il faut s'inscrire. Il y a un coût. Voilà. Comment ça se passe pour que les auditeurs puissent dire, tiens, moi, je suis intéressé, je voudrais y aller.
Tout à fait. Voilà. Donnez-nous les rendez-vous, les lieux et notamment...
Les jours de visite aussi.
La méthode.
Alors, en matière d'information pratique, le musée est ouvert sans réservation. Il suffit simplement de venir à heure précise. Il est ouvert tous les vendredis et tous les samedis.
On rappelle l'adresse, s'il vous plaît, monsieur Mahut.
5 Place des Héros, à Marseille, donc quartier de Château-Gombert. Le musée est ouvert tous les vendredis et samedis à 15h. La visite commence à 15h précise devant le musée. Elle est à 10 euros par personne. Elle est à 5 euros pour les moins de 12 ans. Elle est même gratuite pour les personnes en situation de handicap. Et il faut bien tabler sur 1h30. Voire parfois, quand le groupe est très motivé et très interactif, 2 heures, puisque l'on s'aventure dans les réserves, on parcourt véritablement toutes ces salles. Et donc, c'est une excellente idée de sortie tout à fait insolite à Marseille.
Voilà, et c'est important de le rappeler. Donc, on est là pour susciter la curiosité des auditrices et auditeurs de Radio Galère de vous rendre au musée provincial de Château-Gombert, qui est un vrai bijou et qui est mené de main de maître, notamment par Madame Brémondi et Monsieur Mahut. Madame Brémondi, je vous en prie.
Il faut dire aussi que après, nous accueillons les groupes sur rendez-vous, oui, en demandant tout simplement l'accueil par mail de préférence. C'est lemuseeprovençal@gmail.com. Et à partir de là, ça peut être aussi en dehors de ces 2 jours de rendez-vous d'ouverture libre.
Alors, et concernant les soirées du premier mardi,
oui,
donc c'est vous réservé aussi, c'est...
En général, oui. Bon, on est dans la salle de l'Orangerie, donc au niveau du théâtre de plein air, l'accès se fait par l'impasse Ramel, et il y a une participation de 15 euros.
Voilà.
Et puis gratuit pour les enfants,
c'est
évidemment.
C'est réglable sur place. C'est
voilà, tout à fait. Il y a pas. Oui. Non, il y a pas besoin de réserver.
Gratuit pour les enfants. On avait reçu Morgane Miroculo. Peut-être un petit mot là-dessus, parce que c'était d'ailleurs une rencontre extrêmement sympathique et puis surtout avec du talent à revendre. Ça, c'est important quand même, parce que au-delà de l'aspect qu'on peut avoir pour l'art ou autre, il faut aussi du talent, il faut aussi de la pertinence. C'est le cas aujourd'hui avec vous, et de par ce que c'est-à-dire l'image que rejaillit le musée provençal. Un mot sur cette exposition qui est toujours d'actualité, monsieur Mahut.
Alors oui, et c'est un succès qui est bien au-delà de nos espérances, parce que la fréquentation ne désemplit pas. En tout cas, le musée est extrêmement visité grâce à cette exposition aussi. Pour ma part, je ne suis pas un ardent adepte et un ardent promoteur de l'art contemporain pour l'art contemporain, parce que j'estime que les lieux ont une âme, on en a parlé à l'instant, et par conséquent, il est parfois très dommage d'imposer à un lieu quelque chose qui ne tient pas compte des lieux. Et Morgan Miropoulo a réussi un coup de maître, c'est justement, et c'est là tout son mérite, de ne pas éclipser la collection et les lieux dans lesquels il a été accueilli, mais bien au contraire, de mettre en lumière cette collection. Et c'est pour cela qu'à ce titre, des artistes comme lui qui sont en capacité de se nourrir d'un lieu et d'accepter que ce soit le lieu qui commande, et pas forcément que sa créativité, c'est extrêmement honorable, parce qu'en réalité, le résultat est tout à fait prodigieux. Et c'est assez amusant, parce que tant le public qu'on qualifierait de volontiers traditionnel, qui s'intéresse aux costumes, aux marseillaises, aux arlésiennes, qui s'intéresse au folklore, dans l'acception la plus variée que ce terme peut avoir, aussi bien ce public traditionnel qu'un public tout à fait branché, un peu adepte de ces choses-là, sont tout à fait séduits par la magie des lieux et de son travail. Donc c'est vraiment une chance que de l'avoir accueilli. Et il a été remarqué, semble-t-il, puisque à l'aune de cette exposition, le musée Frédéric Mistral à Mayanne, la maison natale de Frédéric Mistral, a souhaité lui donner carte blanche pour inaugurer la nouvelle salle d'exposition qui est sortie de terre et qui va être rouverte avec la maison le 25 mars prochain.
Donc parfait.
Il continue sa route.
En tout cas, on lui souhaite évidemment de poursuivre ainsi. Et il nous reste 7 à 8 minutes sur les ondes de Radio Galère. On est toujours en direct avec Alexandre Mahut, responsable des collections et conservateur du musée Provençal qui se trouve à Château-Gombert, accompagné d'Evelyne Brémondi, directrice de l'association des œuvres sociales et régionaliste de Château-Gombert. Il faut absolument, en tout cas, on espère en tout cas, vous éveiller et susciter votre curiosité, mais vous rendre au musée Provençal. Richard l'avait vu avant sa rénovation, avait un vrai coup de cœur. Et d'ailleurs, nous, on s'engagera à venir prochainement pour, évidemment, admirer ce joli musée. Richard, je t'en prie, peut-être quelques questions. On va évoquer notamment ensuite les coulisses du musée, la création de réserves, la restauration. Il y a des règles aussi un petit peu à respecter, en tout cas, comme on le dit si bien dans les règles de l'art, l'originalité du musée. Il y a pas mal de choses à dire. On a 7 à 8 minutes et on va en profiter avec vous. Richard, je t'en prie.
Alors, juste Château-Gombert, sa spécificité du musée, et puis également des danses provençales. Il faut aussi, est-ce qu'ils s'inspirent des costumes de l'époque pour leurs danses, etc. Et est-ce que vous avez des contacts avec eux, qui
Rodelet-Félibin de Château-Gombert, oui, bien sûr, il porte des costumes absolument magnifiques, et je peux en parler puisque ma maman en faisait partie et a beaucoup réalisé des patrons à partir des collections du musée en son temps. Et de là, avec toute une équipe d'ateliers de couture, ont réalisé les costumes qui sont encore et toujours portés sur des bases de relevés de patrons, notamment puisés dans les réserves du musée.
Bon, on voit bien que Château-Gombert a une spécificité quand même très provençale. Hein, donc, au-delà de ça, moi, je le redis, je vous l'ai dit hors antenne, j'ai été triste de la fermeture notamment du restaurant, qui était un restaurant marseillais, et je regrette qu'il ne puisse pas réouvrir un jour.
Ce restaurant du musée, vous en parlez, malheureusement, c'est un restaurant qui, au départ, était destiné à un partenariat avec le lycée hôtelier de Bonneveine. Et c'était une idée d'un recteur à l'époque qui s'appelait René Blanchet, qui avait souhaité que dans le cadre de la restauration des bâtiments qui ne pouvaient plus recevoir la maison de retraite, puisque ça nécessitait des aménagements qui étaient impossible à réaliser in situ, et on avait transformé une partie de ces locaux avec ce projet de restaurant, avec le petit hôtel qui se trouvait au-dessus. C'était une idée dans le cadre d'un accueil culturel et touristique, et ça fonctionnait, sauf que le lycée hôtelier de Bonneveine n'a jamais donné suite à ce projet et qu'il a fallu monter une équipe, et ça c'est resté très compliqué. C'est un métier. On l'a tenu de 2002 à 2011, après quoi ça a été un petit peu compliqué. On a fait de l'accueil, y compris avec les équipes de Thierry Marx.
Vous aviez des spécialités.
Ah oui, bah, bien sûr. Oui. Mais malheureusement...
Des pâtes à l'encre de sèche. Enfin, bon,
On avait la daube provençale, surtout les pieds paquets, les alouettes. Les alouettes au centre d'Halloween.
Et quand vous parliez...
L'aïoli tous les vendredis.
Voilà, et c'était vrai, exact. Et quand vous parliez du piano, et en bas du restaurant, il y avait une esplanade qui est magnifique.
Oui.
Et il y avait régulièrement des personnes qui étaient au piano.
Oui, tout à fait. Ben oui, c'était très animé.
Voilà.
Mais ça, c'est un métier, ça nécessite, on s'est recentré sur le musée.
Ça peut donner peut-être des idées aux autres de le reprendre.
Non, mais vous savez, les locaux ont été complètement réaffectés, justement, et dans un profit bien plus intéressant qui se recentre sur le musée avec l'installation des réserves que gère. Ouais. Justement, Alexandre, de main de maître. C'est un bel espace qui a été encore réemployé, mais je dirais très intelligemment et puis rationnellement, c'est beaucoup plus cohérent avec, je dirais, notre activité qui est le centre du...
Moi, ça m'a rendu de ne pas aller manger là-bas, voilà.
Et oui, voilà. Mais le centre d'intérêt, je dirais, de
Mais je reverrai très volontiers, très prochainement, le musée. Je pense que ça m'aiderait les petits-enfants.
Avec plaisir.
Même pour les becs fins, il existe d'autres nourritures que les nourritures terrestres.
c'est vrai.
En particulier la culture qui nourrit.
C'est exact. Et il faut en profiter, dire que donc actuellement, on dit que les visites sont essentiellement le samedi.
Et le vendredi.
Et le vendredi.
Sur rendez-vous.
Pour les groupes.
Voilà.
Et il est
que
vrai.
L'entrée est à 10 euros pour visiter un musée qui fait quand même 2700 m2. Et qui est
surtout un guidage qui est exceptionnel, vous verrez.
C'est vrai.
Oui, puis il faut saluer, on a une équipe de bénévoles absolument fantastique, ça il faut le souligner. Je crois on a autour d'Alexandre, on a des stagiaires de qualité bien sûr qu'on reçoit régulièrement parce qu'on est on est là pour ça aussi, pour accueillir tous ceux qui s'intéressent et qui ont choisi ces voies, comme l'archiviste, la future conservateur que nous accueillons et qui va gérer justement ces ateliers
d'inventaire.
Et donc, c'est vraiment une belle équipe autour de ce musée. Et puis des administrateurs exceptionnels, parce que comme on l'a souligné au départ, c'est un musée privé, qui dit musée privé dit musée associatif, association, qui dit des administrateurs qui sont tout à fait remarquables et qui soutiennent à fond cette association, qui sera bientôt centenaire, puisque le musée, on commence justement à faire peau neuve et préparer le centenaire du musée pour 2028.
Alors juste un petit mot vous concernant, vous étiez où avant, vous faisiez quoi en fait?
Oh, j'étais étudiant parce qu'il a bien fallu étudier, j'ai fait une thèse d'histoire de l'art et bon ça vous fera sourire, je suis 18e-iste, je m'intéresse au 18e siècle, c'était ma période de prédilection, j'ai étudié les châteaux de Provence, j'ai étudié les arts décoratifs provençaux au 18e siècle. Et quand je suis arrivé à Château-Gombert, évidemment, les collections dataient pour une large part du XVIIIe siècle, mais les bâtiments, eux, sont du XIXe et même du début du XXe. Et vous voyez, il ne faut jamais dire jamais, parce que malgré toute la hantise et vraiment une désaffection, enfin en tout cas, pas beaucoup d'amour pour le XIXe siècle, je me mets à l'aimer, je me mets à me rendre compte qu'il ne faut pas être sectaire et qu'au-delà du XVIIIe, il y a des périodes passionnantes. Et Château-Gombert, c'est justement peut-être cette synthèse. Ce sont des collections qui couvrent 4 siècles d'histoire, qui sont dans un écrin qui est effectivement fin XIXe, début XXe, mais cela tient à la personnalité de son fondateur. Et en hommage et en soutien en tout cas à l'œuvre considérable qu'il a réalisée, il est finalement très important de perpétuer cet esprit. Et puis peut-être que dans 100 ans, on trouvera ça très bien et qu'on sera même passionné par...
Et surtout que ça ne se perde pas, que ça perdure.
Bien sûr. Là, on a un garant. Hein. On a, On a fait une passation de...
Oui, c'est pas tant ça.
Il a été brillantissime lors de sa soutenance de thèse. Il faut dire est auteur de... Enfin, il est pas, c'est pas non plus un tout petit perdreau de l'année, puisqu'il a quand même... Il est l'auteur de pas mal déjà d'ouvrages sur ces sujets. C'est un spécialiste des arts décoratifs en Provence, hein, au XVIIe et XVIIIe siècle. Et il a soutenu sa thèse de façon brillante, à la stupéfaction presque des membres du jury. Et en plus, nous étions évidemment présents. Et il est auteur encore une fois. Et puis commissaire de plusieurs expositions, notamment l'exotisme en Provence avec, au Château Borély. Madame de Sévigné à Grasse. Et puis plein d'autres petites expos. Il a participé à la prochaine ouverture du musée de la maison Mistral à Mayanne. Donc, beaucoup de cordes à son arc et qui garantit la pérennité du musée avec un avenir brillant.
Ouais. Écoutez, c'est la meilleure nouvelle de la journée parce que moi, je suis très attaché.
Je le pense, c'est pas pour faire du violon, comme on dit.
Non.
Mais je le pense vraiment.
C'est pas du tout mon style de faire ça. Mais je suis un amoureux des traditions, quelles que le soient. Je trouve que quelquefois... Moi, j'ai eu un regret, par exemple. On avait un locatier de costumes qui s'appelait Picpus, à l'époque, et qui, quand on louait... Vous savez, maintenant, quand on loue dans les soirées costumées, etc. Mais à lui, il avait tous les costumes d'époque pour le théâtre. Oui. Et c'était une affaire qui avait 100 ou 200 ans d'existence. C'est-à-dire, vous voyez la collection de costumes. Et je me souviens avoir fait des soirées costumées avec des costumes de théâtre, soirée, quoi. Et je veux dire, et c'est dommage, vous voyez, c'est une entreprise qui a été rachetée par des Japonais. Eh bien, écoutez, j'étais en crève-cœur, parce que c'était quand même tout provençal, tout ça. Enfin, c'était des costumes de scène, mais rapprochés à notre région.
Ça faisait partie du patrimoine local.
Et vous voyez, c'est pour ça que je suis très attaché à ça, vous voyez, c'est pas particulièrement. Et donc, on est heureux de vous avoir.
Mais nous avons assisté ces dernières années, à la fermeture des librairies Tacussel à Marseille. Nous avons assisté au naufrage de la maison Figuère, qui était une dynastie de faïenciers de grand talent. Et à chaque fois, le musée a essayé de sauver des archives, des moules, des pièces, etc. C'est donc la preuve que ces musées, vous voyez, ont une utilité plus que jamais, puisqu'en réalité, dans un monde où toutes ces choses-là petit à petit s'étiolent, eh bien, les musées les conservent et les présentent avec un grand sourire.
Mais vous voyez, par exemple, on voit qu'on recherche de plus en plus d'artisans de qualité pour restaurer des musées comme vous, etc. Et que ce sont des métiers qui étaient un peu en disparition, qui commencent à reprendre
bien
vie.
Bien sûr.
Parce qu'il en faut.
Bien sûr.
Vous voyez. Et ça, c'est magnifique, quoi.
Parfait, c'est le mot de la fin. On a dépassé, vous voyez, de quelques petites minutes, mais il y avait matière à dépasser. Puis on a rattrapé les petites minutes que Monsieur Mahut avait dû manquer de par le trafic routier. Merci mille fois à vous, Monsieur Mahut et Madame Brémondu, d'avoir été nos invités ce matin.
Avec plaisir.
C'était un vrai plaisir de vous avoir. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous allez être amené à venir nous voir. On peut faire 2-3 émissions par an, évoquer vos actualités, vos expos. Il y a beaucoup de choses à dire. Et c'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pause musicale, avec grand plaisir, bonne journée. Pause musicale sur les ondes de Radio Galère avec Je pense à vous et juste après donc le dossier Les Gilets jaunes et notamment le collectif de la carrière de Mazog. Vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur ce combat de lutte écologique, sociale, politique et j'allais dire surtout humaine. Merci Monsieur Mahut, merci Madame Brémondi, au plaisir.
Je ne m'y attendais pas, au grand départ. Fermez la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Comment ça va? Je ne sais pas. Je vis la vie dont j'avais envie, mais ne vous méprenez pas. Mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, les faux pas, à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à... Comment ça va? Je ne sais pas. Je vis la vie dont j'avais envie, mais ne vous méprenez pas. Mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, les faux pas, à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort.
Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'actualité et au dossier central de la matinale, un dossier pour lequel en tout cas on a eu une vraie accroche et qu'on souhaitait mettre en avant. On remercie notamment les Gilets jaunes par le biais d'Edouard qui est avec nous et Sylvain que je salue, qui sont en off, qui vont pas intervenir physiquement mais ils sont avec nous et je les salue pour cette connexion. On a le plaisir de recevoir ce matin, pendant près de 40 minutes, toujours en direct sur les ondes de Radio Galère, Anthony au micro, accompagné de Richard, évidemment. Nous avons Pierre, qui est Gilet Jaune, PACA, rond-point de Bandol, membre du collectif Gilet Jaune Action Nationale. Il est accompagné d'Olivier, qui est membre du collectif Anti-Carrière de Mazog. On va vous évoquer un petit peu où se trouve Mazog, on va le situer géographiquement. Parlant dans le Var, présenter ce collectif, il y a beaucoup de choses à dire, n'hésitez pas à être réactif par le biais de mon téléphone, vous en avez l'habitude pour tout le réseau, par SMS ou même par mail, je les actualise, je peux en regarder quelques-uns parfois au cours de l'entretien, c'est un dossier sensible, et voilà, et on est ravis de vous accueillir. Alors on aurait aimé ne pas vous accueillir, ça voudrait dire qu'il n'y avait pas cette lutte en tout cas à développer, mais elle est bien là, merci d'être là et bonjour à vous Pierre.
Bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, hein, je suis Pierre. Je fais partie du groupe de Gilets jaunes de Bandol. Hein, nous sommes encore actuellement sur le rond-point, hein, pas évidemment oui. De façon journalière, hein, c'est fini. Mais nous tenons réunion et on se regroupe tous les mercredis après-midi à partir de 14h30 sur le rond-point de Bandol qui est à la sortie ou à l'entrée de l'autoroute.
Parfait, merci en tout cas pour la présentation. Et bonjour Olivier qui vous accompagne aujourd'hui, membre du collectif Anti-Carrière de Mazog.
Oui, c'est ça, Olivier, membre du collectif Anti-Carrière de Mazog. C'est un collectif d'associations principalement qui s'est créé en 2018 lorsque la commune et le département et une association ont perdu leur recours contre l'autorisation préfectorale de faire cette carrière. On s'est créé parce qu'on s'est dit que il fallait agir urgemment pour pas qu'elle débute. Et donc, depuis 2018, on a réussi à ce que la carrière ne débute toujours pas. C'est un projet qui date de 2008.
Et on le rappelle, voilà, elle aurait dû démarrer. Heureusement, évidemment, la lutte et l'action sociale, ce sort de fédéralisme, en tout cas d'habitants, de citoyens, permettent en tout cas de freiner et on l'espère surtout de stopper ce projet-là. C'est une lutte quand même qui devient une lutte quasi quotidienne, pour ne pas dire, enfin, j'allais dire hebdomadaire, mais en tout cas une lutte qui a du sens. Et aujourd'hui, on le rappelle, la menace est toujours présente, Olivier.
La menace est toujours présente et plus que jamais, puisque depuis ce début 2025, les premiers tirs de mines, ce qu'on voulait absolument éviter, ont eu lieu. Alors, ils se cachent derrière des tirs de mines qui seraient tests pour voir si tout fonctionne bien. Mais les tirs de mines tests détruisent déjà les habitats naturels, les espèces protégées potentielles qui s'y trouvent et qui ont été recensées, et met en danger la nappe d'eau qui se trouve dessous, et on pourra aller un peu plus dans le détail tout à l'heure.
Exactement, on va y aller justement. Auditeurs, auditrices, restez bien à l'écoute évidemment. Richard à mes côtés pour poser des questions. Donc on a une sorte de menu que vous avez développé, donc on va le développer ensemble, et on va évidemment rebondir, on va éclairer, on va décrypter aussi, parce que peut-être qu'on a des personnes qui sont néophytes en la matière et qui n'ont pas tout cet élément-là. Déjà, un mot sur le côté démocratie, qui est quand même bien caractérisé chez les Gilets jaunes, ce mouvement, on le rappelle désormais, qui a plus de 7 ans. Pierre, un mot sur la démocratie et sur le fait que 28 maires sont signataires. Le maire de Mazog qui a été élu pour la défense des citoyens et qui est signataire d'accord avec, je cite, Provence Granulat. On rappelle que les élections ont lieu dans un an, quasiment jour pour jour. Ça démarra mi-mars, donc c'est en 2026. C'est là aussi peut-être un enjeu important. On en est où sur ce volet de la démocratie, Pierre ?
Alors, justement, comme vous le rappeliez, hein, il y a 28 maires qui ont signé pour
on peut rappeler, pardon, je m'excuse Pierre, de rappeler géographiquement pour que les auditeurs comprennent un petit peu où on en est. Il y a une vidéo qui circule qui est extrêmement bien faite sur YouTube, vous tapez. Vous allez désormais, maintenant, ou cet après-midi, ou demain, en tout cas, prochainement, vous tapez sur le moteur de recherche anti-carrière de Mazog, M-A-Z-A-U-G-U-E-S, et vous avez une vidéo qui est à peu près de quasiment 8 minutes, qui est très bien faite, en plus un côté second degré, mais à la fois évidemment qui sensibilise et qui permet de prendre conscience des enjeux et des dangers de la situation. Donc c'est important de le rappeler. Géographiquement parlant, on est où dans cette carrière de Mazog ? Je m'adresse à vous deux, messieurs.
Alors, on est Mazog, c'est une petite commune du Var. Peut-être que ça parle pas beaucoup ici à Marseille, mais si on précise où elle se trouve au pied de la montagne de la Sainte-Baume. Et là, je pense que ça parle à beaucoup plus de monde. Et ce projet de carrière se trouve donc, première ineptie, au cœur même du parc naturel régional de la Sainte-Baume.
Ça, c'est quand même incroyable. Ça se trouve au parc naturel de la Sainte-Baume. Vous imaginez un petit peu le problème, j'allais dire, l'oxymore qui s'y développe. Pierre, je vous en prie. Voilà, c'est important de le rappeler. On pourra évoquer les différentes régions. On parle de communes, 28 maires signataires. Donc, ça veut bien dire que ça a du sens, hein, évidemment.
Oui, bien sûr, ça a du sens. Hein, pour plein de choses. Hein. Déjà, ça pose un problème de nature. Hein, ça pose un problème de.
N'hésitez pas à parler un peu plus fort, Pierre, s'il vous plaît.
Ça pose le problème d'alimentation d'eau. Et cette eau, c'est pas simplement une réserve d'eau standard, c'est quand même une réserve d'eau potable. Ça repart donc sur le lac de Carcès, hein, et le lac de Carcès, à partir de là, alimente quand même pas mal de communes sur le secteur. Donc il y a plein de maires qui se rendent compte, hein, de ce danger, hein, de cette eau qui est essentielle, hein, pour nous. Hein. L'eau, c'est la vie. Hein. Il n'y a pas de vie sans eau. Et donc c'est quand même un peu surprenant qu'il y ait eu cette décision. Donc 28 maires s'opposent à ce projet. dont le maire de Mazogues, qui a été élu aux dernières élections municipales, qui s'oppose à, donc à la...
Alors c'était l'ancien maire, c'est l'ancien maire qui était complètement opposé, qui avait porté des recours juridiques. Et malheureusement, le maire qui est arrivé récemment au pouvoir, aujourd'hui, sur le papier s'oppose, mais dans les faits, il ne s'oppose plus du tout. C'est d'ailleurs lui qui a signé le permis de construire et qui a encore accéléré l'arrivée de cette carrière sur cette zone-là qui était jusque-là encore protégée.
Oui, et on le rappelle, il y a un prochain mandat dans un an. Donc,
voilà, tout à fait. Donc c'est un peu là que se joue un petit peu le côté de la démocratie. Hein. C'est que ce maire qui, c'est quand même qui donnait quand même l'impression de ne pas accepter cette carrière, en fait signe absolument tout avec Provence Granula, il n'y a aucun souci, pour lui en tout cas. Et donc... ça montre que, justement, il faut rentrer dans une démocratie, déjà au départ communale. Hein, c'est un peu d'ailleurs sur ça que nous, en tant que Gilets jaunes, mais il y a plein d'autres collectifs citoyens hein, qui sont organisés dans le domaine. Et donc, nous, on travaille beaucoup avec, justement, un collectif qui s'appelle « À vos communes ». Et dont l'objectif est de créer des groupes qui vont se présenter aux élections municipales, non pas pour devenir un maire comme tous les autres maires, ça ne nous intéresse pas, hein, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un maire porte-parole, comme on applique. On dit, hein, nous, c'est des citoyens, il faut qu'il y ait des collectifs et des réunions citoyennes sur tous les sujets importants hein, qui font rentrer l'équilibre de la ville, qui peuvent avoir au niveau argent, hein, il faudra voir dans le budget, etc. Tout ce qu'on veut faire, ça doit être décidé par le citoyen.
Et ça, évidemment, c'est important de le rappeler. Voilà. Oui, Richard, peut-être avant de parler des problèmes qui sont liés à l'exploitation de la carrière.
Moi, je me pose une question. Comment peut-on avoir une opposition diamétralement opposée? Puisqu'il y a certains qui veulent faire la carrière impérativement. Est-ce que c'est parce qu'il y a des intérêts financiers? Je ne sais pas. Et une opinion qui est la vôtre, qui soutient quand même quelque chose de tout à fait logique, hein, c'est avec des dégradations. Comment peut-on avoir un écart de trucs? C'est, l'opposition, c'est où? C'est au niveau financier, au niveau rapport, c'est où?
Alors en tout cas, dans la démocratie, il y a donc ces 28 maires, il y avait aussi le département qui s'opposait à ce projet. Et c'est par l'intermédiaire, par contre, du ministère de l'écologie qui a fait appel en 2017 et qui a gagné pour que la carrière ait le droit de se faire. En première instance, les anticarrières avaient gagné et le carrier a fait appel et le ministère de l'écologie de l'époque s'est joint à lui et c'est depuis là que la carrière peut se faire.
Juste un point, pardon Olivier, c'est important, je reçois juste un message d'une association qui me dit qu'il faut quand même rappeler aussi le côté économique. L'intérêt du carrier. Donc c'est important de le rappeler évidemment parce que nous on parle d'écologie, de lutte sociale, de lutte humaine, de transformation de la nature, on peut parler des différentes espèces qui sont menacées. Il faut quand même rappeler que la volonté de faire cette carrière, elle est simplement guidée, il faut le dire, par l'aspect financier, pour ne pas dire l'aspect business et rentabilité. Oui. C'est important de le rappeler.
Pour se donner un ordre d'idée, l'autorisation préfectorale lui permet de sortir 400 000 tonnes de roches par an, 1600 tonnes par jour, 1 600 kg de roche par an. Alors je ne sais plus en ce moment à combien est le prix du kilo de granulat.
On parle de millions d'euros par an.
On part sur plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Sachant aussi que le propriétaire, c'est donc Provence Granula, qui est une filiale de la multinationale Audemars. Oui. Et qui semble avoir le bras assez long, elle date de la fin du 19e siècle, et elle a construit réellement sa richesse pendant la colonisation notamment, où elle a pu créer des carrières, des carrières au Maghreb.
Voilà, c'était important quand même de le rappeler. On rappelle qu'il y a une manifestation aussi, Olivier, cet après-midi, et Pierre. Voilà.
Tout à fait.
Oui. Vous donnez les axes, oui.
Tout à fait. Il y a une manifestation. C'est 14h à la porte d'Aix, hein, sur Marseille. Et ensuite, on va aller en groupe jusque devant la Dréal.
Voilà, très bien. Donc 14h, porte voilà. d'Aix, voilà. il faut s'y rendre. Voilà.
Et l'idée, c'est d'obtenir un rendez-vous, évidemment, avec les responsables de la Dréal. Pour, je pense que d'ailleurs Olivier en parlera. Mais,
Pierre, il faudrait parler juste un peu plus fort.
Justement, pour
s'il vous plaît.
Olivier en parlera sûrement un petit peu tout à l'heure. L'idée, c'est quand même bien d'avoir ce rendez-vous pour pouvoir discuter avec eux, puisque la Dréal n'est pas complètement en dehors du sujet. Hein.
Innocente.
Pas innocente.
On
du
a bien
tout,
saisi.
Hein.
Oui, voilà.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on va auprès d'eux. Hein.
Bon, parfait.
Richard demandait, mais alors où se trouve aussi les pour? Eh bien, pour nous, il nous semble que la Dréal est justement pour cette carrière.
On rappelle ce que c'est la Dréal, s'il vous plaît,
Olivier.
Oui,
c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Alors, il y a le mot environnement dedans, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout l'aménagement qui compte et donc les industries. Le code de l'environnement oblige la Dréal à transmettre aux citoyens qui le lui demandent certains documents sur des installations classées pour l'environnement, les ICPE. Cette carrière est une ICPE. Il y a des documents qu'on leur réclame depuis de nombreux mois et on n'a toujours aucun retour de leur part. On a l'impression qu'on pourrait dire que c'est de la rétention de documents. Donc on a organisé cette manifestation-là pour leur mettre la pression avec tous les citoyens opposés à ce projet de carrière, leur mettre la pression pour qu'à la fois ils nous donnent enfin accès à ces documents et pour nous recevoir directement dans leur bureau. On leur avait proposé de nombreuses dates, ils n'ont jamais répondu. Donc,
oui, parce qu'ils ont fait preuve, au-delà d'un refus, c'était surtout de l'indifférence qui est restée. Je vous invite d'ailleurs à signer une pétition. Moi, je l'ai fait d'ailleurs. Vous allez vous taper sur Green Voice. Il y a une pétition qui s'appelle « Non au projet de carrière Amazog, non à la pollution de la plus grande réserve d'eau du Var ». C'est quand même important, hein, auditeurs, auditrices, pour ceux voilà, qui n'ont pas les éléments. On parle de la plus grande réserve d'eau du Var. On va parler évidemment de pollution, des ressources en eau. On y vient notamment sur les problèmes qui sont liés à l'exploitation de la carrière. Parce que au-delà de faire une rentabilité notoire, le grand danger, on l'a bien compris ici avec Olivier, Pierre et tous ceux qui gravitent autour, c'est que c'est un vrai danger pour l'environnement. Et ça, c'est très important, messieurs. Pierre.
Oui, tout à fait. Hein. C'est un très grand danger pour l'environnement et, comme on disait, pour l'alimentation en eau. Hein. Mais, comme on disait, c'est effectivement, il y a un problème d'argent derrière. Hein. C'est bien évident. Une entreprise, quand elle se met quelque part, c'est pour gagner de l'argent avant tout, surtout dans nos sociétés. Hein. Mais le problème, c'est que voilà, derrière, c'est énorme, toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Hein. On disait donc écologique, au niveau du bien-être aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que si la carrière arrive, hein, on a parlé de masse énorme de granulats qui vont bouger.
Oui,
ça
exactement.
Veut dire que du coup, il va falloir faire passer des camions. C'est une petite ville, Mazog.
Combien d'habitants
850 habitants.
850 habitants.
Voilà. Et les routes, bon, bah, ce sont des routes comme on trouve hein, dans ce genre d'endroit. Donc, c'est pas des nationales à trois voies. Et donc, quand vous allez avoir des camions qui vont circuler toute la journée comme ça, avec des granulats dessus, on voit tout de suite les problèmes dans la vie courante des gens, les problèmes que ça va poser. Et ça explique aussi un peu ce mouvement qu'il y a hein, au niveau de la population quand même.
Hein. Oui, justement, on y vient notamment sur, vous parlez des risques de fissures du sous-sol, disparition de la nappe, pollution de la nappe, atteinte à la biodiversité. Ces éléments-là semblent extrêmement évocateurs et auraient dû être en tout cas des motifs d'alerte pour stopper le projet. Or, il n'en est rien.
Oui,
et ça se poursuit.
Pour revenir un petit peu sur cette nappe. Hein. Donc, comme vous l'avez dit, c'est la plus grande masse d'eau potable souterraine du Var connue. Elle a d'ailleurs été classée par l'État à travers le SDAGE, zone stratégique pour l'alimentation en eau potable.
Rien que ça.
Voilà. Et stratégique pour l'avenir en alimentation en eau potable, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de forage direct sur cette nappe d'eau souterraine. Néanmoins, elle est déjà utilisée, et c'est ça qu'on met en avant. Elle est utilisée directement par la première commune impactée, c'est la commune de Tourve, qui est limitrophe au projet de carrière, où l'alimentation en eau potable se fait par une de ses sources, la source d'Elec. Et puis, il y a deux autres sources, cette nappe nappe souterraine donc sort par deux autres sources, la source Le Lioto et la source de la Figuière, qui se jette dans le Carami. Et le Carami a été construit sur la commune de Carcès, un barrage qui est justement là pour alimenter en eau potable plus d'une quinzaine de villes de l'aire toulonnaise.
Quinzaine de villes qui sont concernées. Est-ce qu'on peut le dire, et est-ce que ça serait entre guillemets une vision extrêmement pessimiste ou plutôt réaliste de dire que ça peut réellement créer un vrai problème de pollution de l'eau et pollution de la nappe?
Ben, c'est fort possible. Donc on est sur le projet de carrière se trouve tout en dessous, il y a donc cette nappe d'eau. Entre le projet de carrière et cette nappe d'eau, il y a des anciennes galeries de mines d'exploitation de bauxite aujourd'hui qui ne fonctionnent plus, et elles avaient été censées être effondrées à la fin de l'exploitation pour justement éviter tout risque. Sauf qu'elles ne se sont pas effondrées, elles sont toujours présentes. Aujourd'hui, on pourrait encore circuler en camion, hein, si on le voudrait, pour se donner un ordre d'idée de la taille de ces galeries souterraines. Et un bureau d'études, Géodéris, a classé toute la zone en 2015 de risque d'effondrement généralisé en masse. C'est plusieurs hectares qui peuvent s'effondrer de plusieurs dizaines de mètres dans le pire des cas. Or, l'arrêté préfectoral prévoit que sur ce projet de carrière soit stocké, par exemple, 40 000 litres de produits inflammables. Que ce soit pour faire le plein des camions...
Ça ne respire pas la sérénité et l'apaisement, hein, on est d'accord.
Il va y avoir des engins dont les plus gros vont atteindre 65 tonnes. La pelle une pelle hydraulique va atteindre 65 tonnes. Donc, est-ce que non seulement il va y avoir les tirs de mine, il va y avoir une réduction...
Qui ont déjà commencé, on le rappelle, les tests. Ça, c'est quand même plutôt... Oui, et puis c'est surtout inquiétant. Parce qu'on parle de phase de test, mais en règle générale, il ne faut pas se leurrer. Si on démarre la phase de test, c'est qu'on souhaite aller au bout.
C'est que les travaux, effectivement, la mise en exploitation est imminente. Hein, et d'ailleurs, le carrier nous a avoué avoir déjà revendu quelques-uns des cailloux qu'il a fait sauter suite à ces tirs de mine test.
Alors en plus, lui, oui. Bruit de décoffrage, lui, non, j'ai déjà revendu, tout va bien, j'assume. Et je fais du bien à la planète, hein, si on l'écoute.
Pardon ?
Il fait du bien à la planète.
Oui. Si vous allez sur son site, on se croirait dans une réserve naturelle une fois que la carrière sera là, tellement elle est bénéfique pour la biodiversité.
On est d'accord avec ça. Toujours en direct sur les ondes de Radio Galère, 9h08. Il nous reste un gros quart d'heure avec, notamment pour présenter cette carrière de Mazog et l'anti-carrière. Les Gilets jaunes sont également présents, et c'est important de le rappeler, cette connexion qui permet de fédérer et de créer cette solidarité-là. Un mot, même deux d'ailleurs, sur les services de l'État. Voilà. Comment les services de l'État réagissent, ou peut-être ne réagissent pas aussi. Il y a quand même des choses à dire, et on parle aussi d'une certaine connivence, même si on l'a plus ou moins évoqué, avec le préfet, l'OFB et l'ADREAL. Allez, Pierre,
puis
Olivier.
Oui, tout à fait. Hein, on voit bien que toutes les actions qui ont été menées depuis très longtemps tous les courriers restent lettres mortes, tous les appels sont complètement partent dans le vent, et on ne voit absolument aucune espèce d'intérêt pour les gens qui militent et qui luttent sur ce sujet. On ne nous écoute absolument pas, hein, donc on n'en est même pas à nous entendre. Hein.
Ça c'est quand même incroyable, voilà. De rester aussi indifférent. Ça, c'est vraiment problématique.
C'est bien là le gros du problème. Et on s'aperçoit à chaque fois que, justement, quand il y a un jugement, on s'aperçoit que derrière, les forces de l'État sont là. Hein. Elles sont derrière le carrier. Elles ne sont pas du tout derrière le citoyen.
Il y a eu un dépôt de plainte, d'ailleurs, concernant cette situation-là. Olivier.
Oui, alors le collectif anti-carrière de Mazog mène trois procédures juridiques pour empêcher la carrière de se faire. Une procédure contre le permis de construire, une procédure, alors là c'est assez compliqué si vous voulez, on pourra plus expliquer, pour faire simple, contre le préfet qui n'impose pas à Provence Granulat qu'il valide ces destructions d'espèces protégées, et comme vous dites, une plainte pénale parce que il avant de faire ses tirs de mine, il a défriché, puis il a, je me rappelle plus, il a utilisé des raboteuses pour aplanir le terrain, pour pouvoir faire passer les camions tranquillement. Et donc, on a porté une plainte pour destruction d'habitats et d'espèces protégées, puisque sur le site des bureaux d'études indépendants, on comptabilisait plus d'une soixantaine d'espèces protégées. Or, pour avoir le droit... Oui, c'est pas rien. C'est pas pour rien qu'on est dans le parc naturel de la Sainte-Baume. Hein. Et se trouve aussi en plus sur une protection européenne, Natura 2000.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est les espèces protégées au niveau... national et européenne.
C'est ça, on trouve des espèces protégées au niveau régional, au niveau national et au niveau européen. Or, pour avoir le droit en France de détruire une espèce protégée, il faut demander l'autorisation et une dérogation. C'est très rare, c'est très difficile de l'obtenir. Il faut montrer que le projet a un intérêt public majeur, par exemple la construction d'un hôpital, la construction d'une école, mais une carrière ne présente pas d'intérêt public majeur. Donc le carrier ne dit pas et essaye de cacher la présence d'espèces protégées. Et l'État ferme les yeux, la DREAL fait semblant de le croire. Maintenant, il a enfin réussi, suite à toutes nos études, à dire « Ah, c'est vrai, il y a des espèces protégées, mais en fait, mes dynamites, tout va bien, ne vont pas les impacter, mes 80 camions par jour... »
C'est comme Tchernobyl, quoi, ça s'est arrêté à la frontière. Un mot sur ça, parce que j'ai pas mal de réactions. Bon, on me dit évidemment que c'est uniquement lié par l'aspect financier. Qu'est-ce que vous dites? Et là, je me fais évidemment... Ma question est rhétorique, mais... Qu'est-ce qu'on peut dire à ce carrier qui nous dit qu'en fait, lui, il ne va pas creuser profondément et qu'en aucun cas, il va abîmer l'environnement? Évidemment, on le croit absolument pas, mais j'ai lu un petit peu dans sa défense, notamment, qu'il disait « Non, mais moi, je ne vais pas creuser si profond et donc je vais respecter et tout va bien ».
Oui, alors face à ce risque pour la pollution de la nappe, une contre-expertise avait été commandé par la préfecture, sauf que cette contre-expertise va complètement dans le sens du carrier en disant que les galeries sont effondrées, donc il n'y a plus de danger. Or, on sait aujourd'hui que c'est faux, on peut y aller dans ces galeries. Et il dit aussi que, si je fais le lien direct avec la question qui m'était posée, mince, j'ai un trou... Ah oui, la nappe d'eau, la hauteur de la nappe d'eau, cette nappe souterraine, donc, d'après le carrier, est très très basse, en dessous de la côte 305. Or, il y a des études du bureau d'études Hydrophys, ce sont des hydrogéologues, qui ont montré que parfois les battements de la nappe pouvaient monter bien plus haut. Et donc, le risque, c'est que le fond de la carrière se termine en plein dans cette nappe dont des centaines de milliers de Varois boivent quotidiennement.
Mais alors, je suis novice, bien sûr, dans ces actions. Ça me paraît tellement ahurissant de voir que le contre-pouvoir, c'est le silence, en fait. Hein, on laisse faire, quoi. Bon, on pourrit la situation, quoi. Et pourtant, vous avez quand même beaucoup de maires qui sont là, etc.
Oui, on a même une pétition.
C'est vraiment quelque chose qui est ahurissant, quoi. Ça me paraît ahurissant.
La Commission européenne a accepté notre pétition. Donc, c'est une pétition officielle vraiment basée là. C'est plus ou moins un charabia juridique illisible. Mais bon, il existe une pétition validée par l'Europe. Et depuis cette pétition-là, l'Europe demande des précisions au gouvernement français qui lui répond à travers de lettres qui sont remplies de mensonges. Donc cette lettre-là, je l'ai imprimée avec moi et elle sera, j'espère, si on est reçu par la DREAL tout à l'heure, pouvoir leur dire comment ça se fait qu'ils disent de telles inepties, que la carrière ne se verra dans d'aucun endroit, alors qu'elle n'est même pas encore créée, que déjà on la voit d'énormément d'endroits touristiques puisqu'on est dans le parc naturel de la Sainte-Baume, que la carrière ne détruira pas d'espèces protégées, que la carrière et ainsi de suite.
Oui, je crois que c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est que tout ce projet est construit sur le mensonge. C'est mensonge sur mensonge. Tout ce qu'on peut essayer de dire au carrier ou de faire passer vers le carrier, derrière, il nous répond des choses complètement affolantes, quoi, parce que c'est bourré d'anomalies, de fausses indications. Et bon, c'est pas possible de le laisser quand même dans cet état. Et c'est encore là, une fois de plus, on va encore le redire, l'État ne fait rien. Enfin, les représentants de l'État ne remplissent pas leur rôle. Et ça, c'est quand même insupportable dans un pays comme le nôtre que toutes les structures d'État qui sont là pour normalement contrôler, pour normalement organiser,
veiller
à tout un tas de choses. Ferme les yeux. Quoi. Ils se déplacent éventuellement de temps en temps et quand ils reviennent, ils n'ont rien vu. Quoi.
Il ne se passe rien. Richard, c'est peut-être une réaction et puis on va évoquer évidemment cette réflexion que vous faites déjà en tant que gilet jaune, Pierre, sur l'écologie. Richard, peut-être une réaction ou une question aussi qui à l'attention de nos amis.
Alors, une question. Bon. Vous faites des actions, etc. Bon.
Cet après-midi, 14h, on le rappelle.
Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus encore? Et est-ce que vous avez encore des possibilités d'aller plus loin dans les actions avec d'autres personnes, avec des attaques peut-être directes aux personnes qui dirigent avec... Est-ce qu'il y a plus fort encore à faire?
Ah ben, je pense que les actions qui sont dans toutes les têtes aujourd'hui, depuis que les tirs de mine ont commencé, eh ben c'est la ZAD ou c'est bloquer les travaux. Mais jusqu'à présent, il n'y a jamais eu... Le collectif se contente, lui, de faire des actions légales.
Et citoyennes, pacifistes.
Voilà, citoyennes, pacifistes. On pourrait dire que les ZAD sont aussi citoyennes et pacifistes, hein, ceci dit, mais illégales. Et voilà, le rôle du collectif jusqu'à présent, en tout cas, c'est de continuer là-dedans.
Mais moi, quand je parlais d'action, attention, c'était pas des actions illégales que je voulais dire, attention. C'était des actions à aller plus loin, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas, un vice...
Sur le plan juridique,
sur le plan juridique, mais... qu'un avocat pourrait mettre en place. Quoi. Voilà,
ah ben, c'est pas... Il y a déjà une triple plainte.
Je crois qu'à un moment donné... Où les avocats qui défendent ce projet, etc., sont de petite taille, et où il faut peut-être prendre plus fort, je ne sais pas.
Alors,
parce
début,
que ça me paraît tellement aberrant.
La commune, en 2015, le département du Var et l'association, la Confédération Environnement Méditerranée, avaient pris pour avocat Corinne Lepage.
Oui.
Et donc, qui avait gagné en première écologiste. Instance, ouais. mais avait quand même perdu en appel. Ouais.
Ça, c'est quand même incroyable parce que vous avez gagné en première instance et finalement, l'appel vous fait défaut et c'est là que le préfet, enfin, je veux dire, il y a forcément une volonté aussi politique, enfin, commerciale. C'est plutôt rare en la matière et ça veut dire aussi que c'est bien mené, peut-être depuis là-haut. Vous voyez ce que je veux dire en termes d'entité?
Ben c'est ce que nous, on estime, c'est ce que nous, on suppose. Mais malheureusement, on n'a pas mis la main encore dessus. Sinon, on en aurait sur une preuve éclatante.
Une preuve tangible, oui.
Voilà. Mais si des personnes, des auditeurs peuvent nous aider, on est preneur de toute information là-dessus.
Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez donner des informations dès cet après-midi, on le rappelle. Porte d'Aix, 14h. Vous ne pouvez pas les manquer. Il y aura forcément des gilets jaunes présents, mais pas que. Hein, c'est
non,
important.
Pas que. Hein,
voilà.
Pas que. On est un élément de la lutte. C'est vrai que le comité anti-carrière de Mazog a une longue histoire, hein, bien avant nous. Hein. Mais il est vrai aussi que quasiment dès les débuts du mouvement des Gilets jaunes, on s'est associé à cette bagarre, hein, on peut dire, parce que là c'est vraiment de la bagarre. Hein. C'est pas simplement d'aller discuter là, il faut se battre, il faut aller sur le terrain. On a été parfois, comme toujours d'ailleurs, je dirais, en tant que gilet jaune, bousculé, mais les autres aussi. Et donc voilà, on y est presque depuis le début. On n'a pas raté beaucoup d'actions qui se sont faites sur le sujet.
Tout à fait.
Et on
c'est
sera toujours présent sur cette action-là. Mazog, pour nous, est un point qui est important et qui est dans notre cœur, hein, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, l'essentiel. L'eau, c'est la vie, il n'y a pas de vie.
L'eau, c'est la vie, et malheureusement, ça devient un peu. On parle de l'or bleu, on parle de tous les. Notamment les scandales ces derniers temps avec l'eau, et il y a beaucoup de choses à dire. Il nous reste 6 minutes. Je vous laisse en tout cas poursuivre les éléments que vous ne souhaitez pas occulter, puisqu'il nous reste quelques éléments à évoquer, et on a 6 minutes avec vous pour poursuivre, messieurs.
Ben, je pense qu'il y a encore un point qu'on n'a pas évoqué, et pas des moindres, c'est qu'on se trouve sur le périmètre de protection des risques technologiques d'une usine classée Seveso, Seveso seuil haut. Pour rappel, c'est Titanobel, cette entreprise, qui fabrique des dynamites. Donc, bien entendu, une carrière juste à côté de l'endroit où on fabrique des dynamites, c'est bien pratique. Sauf que c'est classé Seveso parce qu'il y a un risque d'explosion hein, qui est là. Pour rappel, Seveso, c'est par exemple la catastrophe de Lubrizol récemment ou encore plus loin en arrière, l'usine d'AZF qui avait explosé à Toulouse. Et puis, si on regarde plus précisément avec quoi fabrique Titanobel les explosifs, ben c'est de l'ammoniac ou de l'ammonium, je ne veux pas dire de bêtises. Et c'est justement ce qui avait explosé il y a quelques années à Beyrouth. Les images avaient été très, très impressionnantes du souffle des explosions.
Allez, je vais vous poser encore une question bête. Enfin. Alors, imaginons, la force financière gagne. Ce ne sera malheureusement pas la première fois. Et à ce moment-là, des accidents peuvent arriver, vont arriver, hein, d'après les probabilités. À ce moment-là, on fait une action. Contre qui exactement? Est-ce que c'est contre une société, contre des personnes? Comment on fait? Qui sont les responsables éventuels après?
Ah bah alors là, vaste question. On se l'est posé, mais on n'a pas encore les réponses. Et puis on essaye de ne pas penser à l'après et pas à la catastrophe. On espère vraiment.
C'est pas penser à l'après, mais oui. Déjà, on peut peut-être, si, comme vous dites, pour trouver, c'est très difficile, hein, je comprends. Hein. Mais si on arrive à trouver un point d'appui, c'est peut-être un point important de pression aujourd'hui. En disant, écoutez, vous allez certainement peut-être gagner pour ça, mais vous en serez responsable demain. Je pense que si on ne responsabilise pas les individus, je pense que le noyau de la société voira tout.
Oui, en tout cas, c'est vrai ce que vous dites. Je pense que pour nous, en tout cas, la responsabilité sera bien entendu du côté du carrier en premier, mais ça
mais
sera
mais carrier,
aussi du côté des services
sur
de
l'État. Sociétés, vous tombez sur les responsabilités qui sont partagées, pas partagées, etc. À un moment donné, il y a bien quelqu'un qui assume la chose, quoi.
Oui, alors pour vous donner un peu l'idée comment fonctionne le raisonnement du carrier, c'est que lorsque il a perdu donc en première instance parce que un juge avait enfin accepté de faire respecter la loi, il a porté plainte, enfin c'est pas le bon terme, hein, mais il a porté un recours contre l'ancien maire de Mazog, lui réclamant a priori 4 millions d'euros parce que il n'avait pas pu faire sa carrière comme prévu, dans les temps prévus. Voilà, pour vous dire que donc, si jamais on fait respecter la loi, eh bien, alors on se retrouve avec des amendes immenses, avec des risques de sanctions juridiques immenses derrière.
On voit encore une fois que la loi n'est peut-être pas si bien faite que ça, quoi.
Ouais.
Oui, tout à fait. Il y a pas mal de choses à revoir.
C'est vrai. C'est vrai.
Oui, nous, on voulait aussi... tant que Gilets jaunes, hein, on était là donc aujourd'hui un peu quand même aussi pour parler hein, de nos actions hein, et de ce qu'on fait autour de tout ça parce que il n'y a pas que Mazog hein, comme problème malheureusement même si on a expliqué hein, que ça retombait directement hein, sur la vie des gens. On a d'autres soucis actuellement hein, sur lesquels on essaye de se mobiliser aussi. Et entre autres, on voulait parler un peu des ZFE, hein, qui sont là aussi, alors on nous dit oui, c'est pour l'écologie, etc. Mais avant toute écologie, le problème là encore, c'est les gens qui souffrent. Alors on nous dit oui, mais c'est que dans certaines villes, etc. Voilà, bon. Mais non, c'est pas que ça. Enfin, c'est pas que simplement pour aller travailler. Il faut voir que ça met en péril pas mal de familles. Les gens qui sont dans des zones comme ça ne peuvent plus, même si elles sont juste en dehors, mais à côté, ne peuvent plus aller dans ces villes-là. Si les enfants vont dans des écoles sur une ville qui est dans la ZFE, ils ne peuvent plus emmener leurs enfants à l'école. S'il y a quelqu'un de malade, il faut prendre le bus, ou, qui n'est pas toujours possible, ou le train, mais on ne peut plus y aller en voiture. Enfin bon, c'est quand même quelque chose aussi d'aberrant. Hein. Là aussi, on retape encore une fois de plus sur le citoyen et malheureusement le plus petit. Et encore une fois, bah, derrière, c'est quand même l'État hein, qui est là. C'est l'État qui organise ça. C'est malheureusement les préfets. Mais derrière, il y a aussi les maires. Il faut que les maires réagissent. C'est à eux aussi de refuser de faire appliquer ces lois qui sont totalement asociales. Voilà, donc c'était un peu, je voulais un peu parler de ça parce que même si c'est pas directement lié à la carrière de Mazog, on est quand même toujours dans cette problématique que l'État, que malheureusement toutes les organismes qui sont là pour normalement nous aider, nous protéger, prennent des décisions qui vont toujours à l'encontre malheureusement des gens les plus pauvres. Parce que effectivement, la ZFE, ça gêne pas les gens qui ont de l'argent. Hein. Ils achètent une voiture nouvelle, la voiture nouvelle est en un ou en deux, et ils peuvent se promener allègrement partout où ils veulent. Ça veut dire que les centres-villes des grandes villes ne seront plus faits que pour des gens qui ont de l'argent et qui ont des voitures qui peuvent circuler. Alors voilà, on est toujours dans cette position où on tape toujours sur le plus pauvre, sur celui qui a le moins de facilité à se défendre. Voilà, donc ça, c'était une des choses qu'on voulait dire. Et puis, en dehors de Mazog, effectivement, il y a Mazog, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a plein de projets, hein, malheureusement, à travers PACA, hein, de projets complètement farfelus. Hein, on a la montagne de Lure qui a été rasée pour partie pour y mettre des cellules photovoltaïques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais il y a peut-être d'autres endroits pour les mettre que de raser des forêts. Et on sait aussi, là encore, on rentre quand même toujours dans la même problématique de l'eau, c'est qu'on sait que les arbres font partie du cycle de l'eau. Et si on rase les arbres, on détruit une partie de ce cycle de l'eau.
Exactement, c'est le mot de la fin. Il est 9h27 sur les ondes de Radio Galère. On doit conclure, on a dépassé de 2 minutes. Il y avait matière à dépasser. En tout cas, merci mille fois à vous. Je remercie Sylvain et Edouard qui ont permis cette connexion. Ils reviendront probablement dans un mois pour le RIC, notamment le 26 mars. On aura une émission spéciale avec le RIC. Ils seront présents. Merci à Pierre des Gilets jaunes. Merci à Olivier de la carrière. De l'anti-carrière de Mazog qui a été avec nous. Extrêmement pertinent, extrêmement accrocheur. Auditeurs, auditrices, tapez sur les moteurs de recherche. Allez sur YouTube, vous tapez carrière de Mazog, M-A-Z-A-U-G-E-S. Et retrouvez-les dès cet après-midi à 14h. Porte d'Aix pour les soutenir. C'est important, on le rappelle, la plus grande réserve d'eau, ressource d'eau du Var. Voilà, merci messieurs.
Radio Galère. Merci à Radio
Galère. Avec grand plaisir, merci à vous. Pause musicale, Transphonie de Marseille, c'est nos artistes qui sont avec nous, chanteuses, vous verrez, artistes pluridisciplinaires. Bah, du coup, on met un morceau qui les caractérise, Transphonie, Fleur Abominable, Maura Guerrera et Daniel Del Monaco. Au plaisir, merci.
Au revoir.
Thank you.
Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission. Il est 9h31 sur les ondes de Radio Galère. C'est le volet consacré, vous le savez, à l'actualité culturelle. On va parler de musique. Et vous avez écouté, là, en pause musicale, Transphonie de Marseille, Fleur Abominable, avec Maura Guerrera et Daniele Del Monaco, voilà, participe pleinement à ce projet-là. On a le plaisir d'avoir ce matin Maura Guerrera, qu'on connaît bien, chanteuse sicilienne sur les ondes de Radio Galère. Elle est avec nous, accompagnée de Cathy Delolme, artiste pluridisciplinaire. On va parler de scénographie, on va parler de musique, on va parler de chant, de danse. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de talent. Et c'est avec nous sur les ondes de Radio Galère. Bonjour Maura.
Bonjour, bonjour à tout le monde. Ravi d'être là.
Mais ravi de vous accueillir une nouvelle fois. C'est la quatrième émission que vous faites depuis quelques années. On est toujours ravis de vous accueillir parce que vous respirez, au-delà du talent musical et de l'accroche, vous respirez l'enthousiasme, et ça c'est important. Et nous, on est ravis de conclure notre magazine d'actualité par ce volet-là.
Merci.
De la poésie et de la musique. Cathy Delhomme, on ne vous connaît pas encore assez, mais évidemment, on va être dans les mêmes vibes et la même sensibilité. On est ravis de vous accueillir, Cathy.
Bonjour, merci, voilà. Moi aussi d'être là.
Merci, merci à vous. Dans un premier temps, on vous laisser un petit peu vous présenter. Alors, Maura Guerra, chanteuse sicilienne, on l'a connue, on la connaît et on la connaîtra. Évidemment, on va parler d'un gros projet qui concerne Transphonie de Marseille. Ça démarre le 22 avril, c'est une expérience de musique rituelle, un projet d'hommage à Marseille. Alors, ça vous paraît long, évidemment, auditeur, auditrice, mais ça permettra d'évoquer, parce qu'on y reviendra, nous, dans l'agenda, notamment dans les courants mars, mais de donner un petit peu les grandes lignes, les grands axes de ce projet-là. On salue, évidemment, notre cher Claude, qui n'est pas là ce matin, qui est un petit peu malade, d'ailleurs.
Oui.
Donc on le salue de Art et Musique. Un petit mot là-dessus, Maura. Il est à l'origine, évidemment, de tout ça. Art et Musique, qui fait un travail remarquable pour notamment mettre en avant différents artistes comme vous aujourd'hui ou comme Cathy Delolme.
Oui, Transphonie de Marseille de Daniele Del Monaco, donc avec un texte de poétique de Fabrice Denis en art fantasio. C'est une idée un peu folle que j'ai conçue parce que je sors complètement de mon milieu de musique de tradition orale pour aller vers l'écriture, vers une musique.
Ce qui est intéressant, c'est que sans te faire jeu de mots, c'est pas votre zone de confort, donc vous sortez un petit peu du confort habituel,
oui,
pour justement vous exercer sur l'écriture, oui. Et c'est, pour vous en tout cas, c'est un vrai challenge.
C'est un vrai challenge, c'est une histoire tout poétique, et je pense que c'est important pour des artistes d'aller vers autre chose, dans le sens où quand il y a des rencontres musicales et artistiques qui nous fascinent et qui nous passionnent, c'est ça qui est l'essence de ce travail. Je pense pas qu'il faut s'enfermer dans un style. D'ailleurs, j'ai rencontré Daniele Del Monaco en 2009 à Rome, compositeur de musique contemporaine.
Claviériste.
Et aussi, ça fait partie de cette rose de compositeurs qui sont aussi producteurs de leur musique et aussi qui sont sur scène, qui jouent leur musique. Il a un fonctionnement presque situationniste où il choisit des artistes qui viennent d'autres milieux, et l'écriture, quelque part, elle est déjà écrite dans les choix des artistes avec qui il va partager ses projets. J'ai adoré son ouverture, sa curiosité vers le monde, cette capacité de faire sentir la personne avec qui il parle intéressante, cette curiosité, alors que c'est quelqu'un qui a un énorme bagage culturel. Il était un des plus jeunes compositeurs de Nuova Consonanza, que c'est la plus importante association de musique contemporaine en Italie. Ça veut dire, entre ses collègues, il y avait Morricone, Ennio Morricone, il côtoyait Ennio Morricone.
Rien que ça, on peut donc rappeler qu'il a fait la musique
il avait ses réseaux, il a connu Berio, il a dîné avec Berio, donc il aurait pu être quelqu'un de prétentieux et de fermé, mais au contraire, il était allé chercher des problèmes quelque part. Ça veut dire, il a cherché un langage personnel, il a cherché à dire des choses qui racontaient vraiment son vécu, parce qu'il raconte toujours qu'il écoutait Bach dans ses oreillettes, mais au Mozart, et en même temps, il allait écouter des concerts des punk, de ses amis, où il jouait des...
C'est donc ce qui fait la force aussi, peut-être, du talent,
la
de
richesse,
la musique, de
mélanger, cette richesse,
en tout cas,
cette curiosité et ce courage courage aussi de ne pas faire les choses comme on nous a dit qu'il faut le faire, mais aller vers quelque chose qu'on a un besoin d'exprimer. Donc, pour moi, c'est ça qui me fascine, c'est besoin d'exprimer quelque chose de personnel, voilà, sans copier, sans imiter les autres.
Parfait,
mais à côté de ça, il y a un énorme talent, un énorme, moi je l'admire énormément. Donc moi, au début, il était fasciné par les chants siciliennes. À l'époque, déjà, je m'intéressais à ces chants-là. Il
ça
aimait
tombe
beaucoup.
Bien, vous êtes sicilienne.
Oui, oui, oui. Et surtout, à l'époque, pas beaucoup de personnes s'intéressaient aux chants paysans de Sicile. Là aussi, j'étais allée vers les chants siciliennes parce que j'avais fait des rencontres avec des bergers. J'ai trouvé ces chants extrêmement puissants. Et aussi, cette histoire de l'homme qui se sentait tout petit face à la nature puissante et qui avec des incantations, son chant, c'était toujours une façon de se mettre en relation avec l'invisible, avec quelque chose qui le dépassait. Et quelque part, transphonie, ça fait écho à cette démarche, parce que là aussi, on se met en relation avec quelque chose qui nous dépasse. Donc, c'est là qu'il y a l'intérêt de l'aventure, c'est là qu'il commence l'aventure.
Justement.
Arrêt Musique en Provence, donc Claude, il suit mes projets, il me soutient depuis longtemps, je lui ai proposé ces projets qui sortent un peu aussi de l'habitude d'art et musique, et ils ont eu ce courage de s'ouvrir à une musique contemporaine, expérimentale, ça veut dire de s'ouvrir à un nouveau marché. Donc c'était ça le gros défi aussi d'art et musique, de sortir des terrains battus. Donc dans ces projets, l'intérêt de ces projets, je pense, c'est cette grande ouverture.
Parfait, merci en tout cas pour cette présentation. Un mot, même deux, avec Cathy Delhomme qui vous accompagne ce matin, scénographe, artiste pluridisciplinaire. On va parler évidemment aussi de cette connexion, de vos actualités. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a une actualité à venir. Expliquez-nous un petit peu justement votre rôle, votre fonction, vos compétences. On le sait, le talent est très présent chez vous, on en est conscient.
Merci. Eh bien, moi, donc j'ai rencontré Maura il y a quelques années. Alors oui, certes, je peux me présenter comme une artiste pluridisciplinaire du fait d'une formation très ouverte. Et j'ai fait beaucoup de danse contemporaine quand j'étais jeune. J'ai étudié aux Beaux-Arts. Donc j'ai fait de la musique plus tardivement. Mais l'essentiel maintenant de mon travail et de ma profession se situe dans le domaine musical, nourri de toutes ces pratiques.
Et nourri aussi par de nombreux voyages, par de nombreux échanges. Vous avez fait la Géorgie,
bien
la
sûr,
Bulgarie.
Bien sûr, parce qu'en termes de musique, en tout cas, quand je suis tombée dans la musique, c'est par la polyphonie et par les polyphonies de tradition orale que j'ai rencontré presque par hasard, et puis que j'ai évidemment étudié en allant voyager en Bulgarie, en Géorgie, en Corse aussi. Et donc, alors Maura disait qu'elle avait rencontré des bergers en Sicile, et c'est sa terre natale. Moi, c'était un petit peu plus compliqué pour m'y retrouver, mais en tout cas, effectivement, ce dont tu viens de parler, Maura, le fait que les chants traditionnels sont un dialogue de l'homme avec l'univers, enfin de la femme avec son univers, je devrais dire d'ailleurs.
Vous faites très bien de le dire.
Pour ce qui nous concerne. C'est ce qui m'a tout de suite fascinée et qui m'a donné envie de chanter.
Enfin, alors, envie de chanter, envie de transmettre aussi,
oui.
Parce que vous avez dirigé des ateliers, des stages,
bien sûr,
des formations
bien sûr,
autour de la polyphonie, vous dites, si je me trompe, du geste vocal et je cite, de l'improvisation auprès des différents publics. On appelle ça la CFMI, c'est bien ça ?
Alors le CFMI, c'est un centre de formation de musiciens intervenants, c'est ce que veulent dire ces lettres. Ça fait partie de l'université d'Aix-Marseille. Il y a plusieurs CFMI en France qui forment donc des musiciens qui sont en tout cas des spécialistes en pédagogie et en situations diverses de public. Voilà, moi j'interviens depuis une petite dizaine d'années au CFMI d'Aix sur justement toute la branche exploration vocale.
Improvisation,
qui va de l'improvisation, enfin, disons, nous allons de la tradition à l'improvisation.
Bon, génial. En tout cas, tapez sur le moteur de recherche Cathy Delhomme, C-A-T-I et Delhomme, D-E-L-O-L-M-E, et vous allez avoir évidemment différentes actualités. Un mot avant de laisser la parole à Richard. sur vos actualités à venir, les perspectives, où c'est qu'on peut vous retrouver,
oui,
sur
alors...
quels sont vos projets. Moi, j'ai parlé en off de, et je salue Odile Lecourt, si elle nous écoute, c'est une amie de la radio, puisque vous étiez au festival de Vive Voix fin novembre, si je dis pas de bêtises.
Oui, avec un chœur de femmes qui s'appelle Voisine.
Oui, Cathy Delolm et les Voisines d'ailleurs, ça s'appelait.
Ben, en fait, c'est moi qui dirige la Je ne chantais pas.
Oui, oui, bon, oui.
Donc, dans mes activités musicales, il y a aussi deux branches, je dirais. Je suis parfois à la place de direction, enfin de chef de chœur,
direction artistique,
voilà, ou direction artistique, et à la place de chanteuse. Donc l'essentiel des activités, de mes activités de création, sont regroupées sous l'association Le Chant du Voisin, qui est à Marseille et qui existe depuis 20 ans. On a eu 20 ans l'année dernière. Et cette association a toujours défendu le fait d'avoir une double activité, deux pôles. Un pôle amateur, un pôle de transmission, de partage, et un pôle de création et de production de spectacles dans lesquels la musique occupait une place prépondérante et majeure. Donc là, pour notre actualité, eh bien, c'est essentiellement autour de deux projets que ça s'articule. Il y a Dalok, qui est un sextet sur les musiques de Hongrie, avec donc le trio Ardeal et mon trio vocal qui s'appelle Nota. Nous sommes trois chanteuses, Gabrielle Varbetian, Mélissa Zantman et moi-même. Donc on travaille depuis quelques années déjà sur des répertoires qui croisent les musiques traditionnelles et les musiques dites savantes, musiques écrites. Depuis quelques années, on s'est engagé dans ce répertoire hongrois, très riche, parce que des compositeurs tels que Görgi Ligeti, Béla Bartók, Zoltán Kodály ont puisé dans la tradition pour écrire leurs œuvres. Donc c'est quand même un aspect majeur de la musique chorale du XXe siècle, ces compositeurs-là.
Parfait.
Et de toute façon, c'est quelque chose, moi, qui m'anime depuis longtemps. Et c'est, je pense, là-dessus que la rencontre a matché avec Maura Guerrera quand elle était en train de réfléchir à Transphonie.
D'où votre présence ce matin.
Exactement,
sur les ondes de Radio Galère.
C'est sur la circulation, en fait, entre les musiques dites populaires et les musiques dites savantes. Et même au-delà, les musiques qui peuvent être de l'ordre. Alors, quand je dis populaire, ça peut être traditionnel, ancienne, mais populaire d'aujourd'hui. Du rock à la musique improvisée en passant par la chanson et la musique dite classique, savante. Tous ces chemins de traverse m'intéressent depuis longtemps parce que je suis curieuse et gourmande de tout ça depuis toujours, en fait, et que le plaisir de chanter peut se retrouver dans tous ces domaines. Et voilà, là, l'enjeu et le principal, la gageure de Transphonie, c'était de réunir des musiciens et des musiciennes autour d'une œuvre écrite préalablement par Daniel et Del Monaco dans un format particulier qui était hybride déjà dans sa forme. Alors bien sûr, des compositeurs depuis le début du XXe siècle se sont essayés se sont plus qu'essayés, ont excellé en fait dans l'écriture, partition graphique mélangée avec une notation traditionnelle. Et là, on est dans une forme, avec Transphonie, dans une forme vraiment très très hybride où nous avons une grande partition en format A3 avec des couleurs, des dessins, des pictogrammes, aussi des partitions classiques avec mais vraiment du dessin, du geste, de l'énergie. Et on retrouve effectivement le geste du chant traditionnel dont Maura a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette nécessité de chanter, cette urgence de chanter. On retrouve ça aussi dans l'improvisation, c'est-à-dire quand on improvise ensemble ou individuellement, c'est qu'on a quelque chose d'urgent à exprimer. Et on le fait sans avoir préalablement mâché et remâché ce qu'on allait faire en tête, surtout pas. Voilà.
C'est important. 9h46, il nous reste une douzaine de minutes. Transphonie de Marseille, musique classique, contemporaine et vocale. Merci à vous, mesdames, d'être présents ce matin. On parle de trois voix de Marseille qui se livrent à une expérience de musique rituelle. C'est un vrai hommage. Cathy Delolm l'a fait avec beaucoup de poésie et d'éclairage là-dessus. Donc c'est un projet qui va compter, en tout cas, à Marseille. Juste avant, peut-être, Richard, et on rappelle les tarifs. Alors, c'est Évidemment, c'est que le 22 avril, donc on a le temps d'y revenir, mais c'est important de le rappeler, on est sur des tarifs quand même seulement 13 euros en tarif plein, 11 euros en tarif réduit pour cette soirée, évidemment, qui ne manquera pas de talent, mon cher Richard, on n'en doute pas là-dessus.
À l'espace oui, Julien de Marseille, bien sûr, vous êtes tous invités, venez nous découvrir, venez faire ce voyage étonnant.
Tout à fait. À l'espace Julien, voyage étonnant.
Alors écoutez, c'est depuis ce matin, on reçoit que le musée provençal par traditionnel à Marseille. Vous, des chants traditionnels qui se réunissent en fait, si j'ai bien compris, dans un même sens.
On va dire que c'est que la vocalité traditionnelle qui est évoquée dans cette partition, parce que c'est de la musique qui n'existait pas avant qu'on la chante. Donc, que ce soit les paroles, que ce soit la musique, ça a été créé par l'inspiration du compositeur Daniele Del Monaco, et les mots qu'on chante sont écrits par Fabrice Denise, Fantasio, poète, improvisateur, performeur, connu partout en France et à l'étranger pour ces élucubrations surréalistes, ces jeux linguistiques et cette poésie. C'est très poétique, c'est très fin et très dépaysant. Donc, dans cette œuvre, il y a plusieurs niveaux. Il y a la parole, il y a la musique. C'est une œuvre chorale. Ça veut dire que Daniel, et d'ailleurs, on a choisi le percussionniste Jérémy Abt, qui a une grande expérience avec les gamelans balinés. Les gamelans, c'est un instrument où chaque personne c'est un bout de l'instrument. Chaque personne joue une partie, mais l'ensemble des personnes, ça forme un seul instrument. Donc, Daniel, il est aussi fasciné par cet aspect-là du gamelan. Donc, quelque part, il voulait reproduire dans cette création musicale cet élément où chacun de nous donne un élément qui va se compléter avec les autres. Ça veut dire les voix, elles vont être complétées par la viole de gambe, les violoncelles. C'est un son d'ensemble.
Est-ce qu'on peut parler c'est intéressant, les différents instruments qui peuvent être représentés au cours de cette transphonie de Marseille.
Alors, moi, je vais présenter, du coup, il y a les trois voix, donc Cathy Delorme, Maura Guerrera et Sam Carpegna, que c'est une voix marseillaise épique et habitée, que tous les groupes ont accueilli avec grand enthousiasme. Il a une belle énergie et lui aussi, il vient de la musique de tradition orale, il n'a jamais travaillé sur l'écriture et dans ça, Cathy, elle a été un grand support pour nous deux, pour nous introduire. Il connaît bien comment expliquer l'écriture à des musiciens qui sont habitués à la musique de tradition orale. C'est même pas une histoire de lecture,
c'est ce
mais
il faut aussi cette force là, cette
convergence
des forces.
Comment l'expliquer, comment la transmettre, comment la faire comprendre. Donc elle a eu un rôle vraiment précieux et je vais jamais la remercier assez.
Vous êtes pas venu pour rien, Cathy Delorme, ce matin.
Très bien. Non, mais c'est que des perles, c'est que des personnages qui sont en train de tout donner. Les artistes dans cette création, ils sont des voilà, on les a découverts au cours de cette expérience et ça a fait une équipe très soudée. Après, il y a violoncelle, donc Soazic Lebra, qui est aussi, elle vient du monde de l'improvisation libre aussi. Elle a une formation classique et qu'on a eu on a vu avec Daniel au sein du Grand 8, c'est un ensemble d'improvisation à Marseille et on est tombé amoureux les deux par l'intensité de sa présence, la concentration. Et en fait, et après il y a Pauline Chiama qui vient du monde de la musique baroque, la viole de gambe, et donc j'ai déjà dit Daniele Del Monaco au clavier, Jérémy Abt à la percussion, et au son on a Nicolas Dick, que c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité parce que c'est très difficile à sonoriser un projet où c'est en moitié avec des instruments comme la viole de gambe, les violoncelles. En partie on a aussi de l'électronique, les claviers, des voix timbrées. Parfois, il y a des moments où les voix sont plus légères. Voilà, il y a plusieurs sonorités. Et les gros, en fait, l'envie de Daniel, c'est que cette musique écrite, elle puisse être réalisée comme une musique de tradition orale, avec cette présence incarnée des musiciens où on n'est pas en train de lire la partition, mais on fait vivre et vibrer dans notre corps ces notes. C'est sa plus grande ambition et c'est pour ça qu'il va chercher des musiciens. Ce qu'il choisit dans les musiciens, en fait, c'est la présence. la présence sur scène, d'être habité par ces notes. Et l'autre jour, il me disait même...
Une sorte de charisme aussi qui permet en tout cas de prendre la place,
oui,
et d'occuper la scène.
Oui, de respecter cette musique à un tel point, de disparaître et de se mettre totalement au service, de se laisser traverser par quelque chose, oublier qu'on est là et se laisser complètement traverser. C'est une œuvre avec beaucoup des textes poétiques extrêmement surréalistes un peu. Ça peut, on n'est pas obligé de suivre une histoire. L'histoire, c'est absolument situationniste. C'est un œuf extraterrestre qui débarque à Marseille et tout se bouleverse dans la ville. Ce qui était rapide devient lent. Ce qui était fort devient fragile. C'est une espèce de révolution et de l'être humain, en fait. Marseille devient une métaphore de l'homme. Cette ville des migrants, des dépaysements, d'opportunités, des lumières éblouissantes, mais aussi des misères et des ténèbres, devient quelque part la métaphore de l'être humain. Donc c'est une œuvre où on essaye de parler de nos ombres, de nos fragilités, des choses qu'on nous apprend à ne pas regarder, à oublier. Donc c'est donner un nom à les choses qui n'ont pas un nom. Et c'est aussi, dans la musique même, on sort de la possibilité de définition, de définir ces musiques. On a dû inventer un mot, transphonie, du latin trans à travers,
ah, voilà,
et du grec
phonie. On m'a demandé, phonia. Ça veut dire quoi transphonie?
Voce, suono, voilà. C'est un mot qu'on a inventé, on a même inventé une définition.
Génial.
Donc, venez le 22 avril à l'Espace Julien pour ces voyages où vous allez partir chacun avec son histoire. Le public qui est déjà venu nous voir, il nous a parlé de messes extraterrestres, manifestes des difformes, couleurs.
D'ailleurs, je m'excuse, Maro, on dit tout. On avait tout à l'heure les Gilets jaunes qui étaient présents et on avait un de vos, j'allais dire, de vos fans, en tout cas, qui était venu vous voir sur le Vieux-Port il y a quelque temps. Donc, vous voyez, c'est aussi ça, les rencontres, ça permet,
oui,
et puis ça prouve le talent parce qu'il m'a dit, je me suis régalé. Vous voyez,
oui,
donc
en duo avec Daniel et Del Monaco, d'ailleurs, qui m'accompagnait à l'harmonium. Voilà. Donc, je vous invite à venir ouvert à une expérience qui va vous rester, qui va rester en vous, je pense. Chacun va repartir avec son histoire. Vous allez partir avec des émotions, des couleurs, des bouts, des poésies. Nous, être cabossés par 100 000 expériences que toutes les hiérarchies camouflent en silence.
C'est magnifique. Richard,
alors,
Kachi,
juste,
Maura, toujours avec
donc
nous.
Donc ça se passe à l'Espace Julien.
Oui, à l'Espace Julien.
Le 22 avril.
Le 22 avril.
Et pour réserver...
Il faut aller sur les sites de l'Espace Julien.
Dans l'Espace Julien.
Déjà, aujourd'hui, la billetterie est ouverte et vous pouvez acheter vos billets.
Voilà, hein, donc en se présentant sur place peut-être, mais il ne va plus y en avoir, alors il vaut mieux réserver avant.
Il vaut mieux réserver avant, oui, merci beaucoup.
Donc c'est une réunion qui vous a permis de faire quelque chose de tout à fait original,
singulier,
si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Parce que
atypique.
J'ai suivi tout ce que vous avez expliqué, mais c'est monstrueux, quoi. C'est très difficile.
C'est le cas de le dire. Oui. C'est le cas de le dire, parce que la présence du monstre, elle est là pour nous questionner aussi. La métaphore, l'histoire que l'on suit ou que l'on ne suit pas sur cette partition, c'est l'apparition d'un œuf géant dans le ciel de Marseille, un beau jour. Et tout ce que ça va bouleverser dans l'expérience de tout, d'une communauté. Et donc, le monstre, c'est l'étranger, c'est l'hybride, c'est celle ou celui qui n'est pas dans la norme. Et donc, évidemment, cette œuvre, elle n'est pas dans la norme. Ce serait ce serait pas possible qu'elle le soit, puisqu'elle parle de justement cette expérience-là, de traverser les genres, transphonie qui va traverser les cadres sonores dans lesquels on met d'habitude les œuvres. On les range dans des boîtes, on vous dit vous faites de la musique savante, ou vous faites de la musique traditionnelle, vous faites de la pop, vous faites du rock, vous faites du rap. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes, depuis longtemps, hein, beaucoup d'artistes se posent les questions de traverser ces frontières-là. Et il y a quelque chose peut-être d'encore plus urgent, plus on avance et plus on se sent aussi enfermé dans des rectangles noirs qu'on met dans notre poche. Et c'est vrai que voilà, ça va aller vers cette ouverture-là, entre nous en tout cas, qui sommes déjà des artistes qui avons des pratiques hybrides. Parce que voilà,
Maura, on peut dire vraiment au sens propre, vous êtes vraiment des artistes là, parce que bon,
je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est ça
la prouesse de l'artiste. En tout cas, c'est de se développer, c'est de susciter, c'est de d'éclairer,
aller chercher quelque chose qui est difficile à inatteignable, irraggiungible,
inaccessible,
et donc rester toujours avec cette frustration de chercher de toucher quelque chose qui c'est difficile à atteindre. Mais dans cette épreuve, dans cet élan, je pense qu'on arrive quand même à dire beaucoup de choses et à susciter beaucoup de
Tous les cas, sans vous avoir entendu, on a envie en tout cas de vous entendre et vous susciter en tout cas cet enchantement.
On vous attend alors.
Mais avec grand plaisir. 22 avril, l'espace Julien, musique classique, contemporaine et vocale, transphonie de Marseille, avec cette si belle définition que nous a livrée Maura Guerrera et que nous a conté avec poésie, notamment Cathy Delorme. Il nous reste 3 minutes sur les ondes de Radio Galère et on en profite évidemment. Richard, je t'en prie peut-être.
Je ne sais pas si on a donné le prix des
billets. Oui, tu en as parlé de 13 euros, tarif
13 euros.
Plein. Et tarif réduit 11 euros pour une soirée.
Vous vous rendez compte, vraiment, c'est trois fois rien pour voir un spectacle unique.
Tout à fait.
C'est le prix d'un ticket de cinéma. Oui. Si on grossit un peu le trait, on est.
Ouais. C'est mieux.
Et en plus, c'est mieux que le cinéma. L'espace Julien, c'est une salle assez agréable. On va avoir des bonnes conditions pour voyager ensemble et pour partir dans cette expérience sensorielle et poétique.
Parfait. D'ailleurs, on avait invité.
C'est une belle salle, et puis je pense, tout est en.
Parle devant le micro, Richard.
Tout est en biais, c'est-à-dire que chacun voit facilement. Hein,
je précise aussi qu'il y aura, il y aura des gradins et des places assises.
Oui.
Parce que nombre d'auditeurs et d'auditrices doivent connaître l'espace Julien aussi en version debout.
Oui, voilà. En version parfois.
Là, elle sera,
c'est un gradin.
Elle sera gradinée, comme on dit. Je ne sais pas si ça se dit.
Oui, oui, ça doit.
Non, pas gratinée, mais gratinée aussi peut-être.
Ça, c'est vous, la gratinée.
Ça, c'est nous, le gratin.
C'est vous, le gratin de talent, ça sera vous sur scène.
Non, mais je précise parce que ça pourrait aussi interpeller des gens. De dire bon voilà, donc c'est une expérience qui peut s'écouter assis.
C'est important de le rappeler, évidemment, 22 avril, l'espace Julien.
Ou debout, comme vous voulez, ça, on peut danser aussi.
Oui, ça c'est important. Un dernier mot, il nous reste une petite minute, je vous laisse 30 secondes à chacune. Pour conclure, en tout cas, nous, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Vous avez enchanté le studio pour nous parler de Transphonie de Marseille, art et musique du monde. On rappelle, on salue Claude, évidemment, qui est à la direction de cette belle structure. Je vous laisse le dernier mot, Maura.
Oui,
et
moi,
Cathy
je vais juste dire encore une fois, donc Transphonie de Marseille de Daniele Del Monaco, poésie de Fantasio, et Cathy Delorme à la voix, Maura Guerrera, Sam Carpegna, les trois voix. Pauline Chiama à la viole de gambe et Soisic Lebras au violoncelle, Jérémy Apt à la percussion et Nicolas Dick au son et Daniele Del Monaco à la composition clavier électronique.
Parfait.
Merci à Claude et à Ré Musique qui jusqu'ici ils nous ont accompagnés.
Voilà. Mais avec grand plaisir. Merci Maura. Merci. Cathy, pour conclure.
Je n'ai pas grand chose à ajouter. Je vous remercie de votre invitation et de ce temps de parole. Et puis,
avec plaisir.
Voilà, nous espérons qu'il y aura beaucoup d'autres éditions de Transphonie et que le
oui, on le rappelle, c'est la première.
Sera au rendez-vous. Oui, alors c'est la première
de cette manière-là.
Pleinement, voilà.
Oui,
il y a
oui.
eu des sorties de résidence et puis. Mais voilà, nous avons joué à Digne, à l'espace culturel René Char aussi, il y a une dizaine de jours.
À la Cité de la Musique le 7 décembre, mais c'était tout
exactement.
Frais. On a joué à Digne, mais il n'y avait pas des Marseillais, mais ils ont beaucoup apprécié. Le Pic, ça a déjà pris forme. Et là, comme on vous a dit, c'est une œuvre où on a envie que les musiciens incarnent l'œuvre sans lire la partition. Donc ça va être
ça
les moments...
Ça se transforme au fur et à mesure du
chaque
temps.
Chaque fois, vous allez voir quelque chose de différent.
C'est magnifique. Oui. Merci Maura, merci Cathy, Transphonie.
Merci à vous.
Tapez sur les moteurs de recherche Transphonie de Marseille. L'émission touche à sa fin. Tout de suite, c'est la programmation musicale de Radio Galère. On se retrouve, nous, le prochain mercredi, c'est-à-dire mercredi prochain, à savoir le 26, le 4 mars, si je dis pas de bêtises, j'ai un petit doute avec ce mois qui se raccourcit. En tout cas, mercredi prochain à la même heure, 8h-10h sur les ondes de Radio Galère. Et cette émission sera rediffusée ce dimanche de 11h à 13h sur les ondes de Radio Galère. Merci au plaisir
beaucoup,
et merci à Richard.
À vous. Bonne journée.
Belle journée à toutes et à tous. Au revoir.